Christophe Bédon.
Comme ça, je peux étendre les jambes.
Il y a Jacqueline. Oui, parce que c'est parce que comme ça les gens le voient.
Bonjour, oui, donc ça marche très bien. Merci à vous tous d'être là. Nous allons commencer dans quelques minutes parce qu'il y a une autre manifestation au Sénat ce matin et donc il y a un peu d'embouteillage à l'entrée. Donc on attend un petit peu que tout le monde puisse rentrer. Donc merci de votre patience.
Comment allez-vous depuis notre dernier échange? Ce matin, sur Marine Le Pen, c'est que a écrit et ce que disait naguère Marine Le Pen.
Voilà. Et les micros pour la salle.
D'accord. Bien, prenez vos places, nous allons commencer. Donc c'est avec un immense plaisir que je vous accueille ici dans la salle Clémenceau, qui est évidemment le lieu idéal pour un colloque sur Clémenceau. Et sans plus tarder, je vais passer la parole au sénateur Fialaire, qui est un de nos fidèles amis et grâce à qui nous pouvons être ici aujourd'hui et qui va nous souhaiter la bienvenue donc au nom du Sénat.
Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Sénateurs, Mesdames et Messieurs, chers amis de Georges Clémenceau. Moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir parrainer ou participer à cette organisation pour ces colloques. Et je voudrais en premier lieu donc excuser le Président Larcher, qui est en déplacement et qui ne peut pas être avec nous et qui m'a prié de lire un mot d'accueil. Donc, mesdames et messieurs, je regrette de ne pouvoir être présent parmi vous pour participer à ce colloque consacré aux amis politiques de Georges Clémenceau, et j'ai demandé à mon collègue Bernard Fialaire, sénateur du Rhône, de porter ce message, et je le remercie de le faire. Je lis intégralement, je ne parle pas encore de moi, la troisième personne, rassurez-vous. C'est toujours un plaisir pour le président du Sénat que je suis, de vous accueillir au sein de cette salle Clémenceau. Toute sa vie, Georges Clémenceau sut cultiver l'amitié, et comment ne pas évoquer celle qu'il éprouva pour le grand peintre Claude Monet, une amitié fraternelle et durable que rien ne put entamer. Rencontra-t-il une amitié aussi intense dans le monde politique? Cette relation précieuse, ce don désintéressé qui a le pouvoir de transcender les clivages partisans et les divergences d'opinion. Il est crucial de distinguer l'ami de l'allié. L'allié guidé par l'intérêt s'éclipse dès que les objectifs divergent. L'ami, lui, reste fidèle malgré les tempêtes. Dans l'arène politique, connue pour sa rudesse, un allié peut-il véritablement devenir un ami? Cette frontière ténue entre alliance et amitié, mérite toute notre attention, car c'est ici que se dessine la possibilité d'une politique plus authentique. C'est dans cette réflexion que réside, je crois, tout l'intérêt de ce colloque. Entre alliés, la confiance s'impose, mais entre amis, c'est l'affection qui s'y conjugue en apportant ce supplément d'âme. La véritable amitié en politique repose sur l'impératif de désintéressement qui tire l'amitié vers la relation fraternelle. C'est un lien qui s'établit en toute liberté. Il est difficile de dire quand naquirent les premières amitiés politiques de Georges Clémenceau. probablement dans les années 1860, lorsque ce dernier fit la connaissance du républicain Auguste Schorer-Kessner, qui deviendra sénateur, et d'Auguste Blanqui. L'amitié qui unit Louise Michel et Georges Clemenceau demeure aussi un exemple passionnant de constance. Ils firent connaissance pendant le siège de Paris en 1870 à Montmartre. Georges Clemenceau était le maire de cette commune et Louise Michel avait créé une école pour enfants pauvres. L'un et l'autre avaient la même ardeur libertaire. Entre eux, une amitié, une affection, une admiration réciproque les lieront pendant toute leur vie, alors même que leurs chemins ne cessèrent de diverger. Il est probable qu'un lien d'amitié fraternelle se soit tissé entre Georges Clemenceau et Georges Mandel. Ce dernier entre à l'Aurore, journal de Georges Clemenceau, dont il devient peu à peu le principal collaborateur. Il apprend auprès de lui l'art de l'ironie et de la critique mordante. Il le suit dans les ministères où il est attaché de cabinet. Lorsque Clemenceau est appelé à Matignon en 1917, il devient son chef de cabinet. Il partage avec lui tant de sujets de la plus haute importance. Une confiance absolue régnait entre les deux hommes. Georges Mandel, en épargnant le président du Conseil des tâches secondaires, lui permit de se concentrer sur l'essentiel, la conduite de la guerre. Il était, comme le dira son biographe Georges Worsmer, son écran protecteur. Il est évident que la carrière de Georges Clemenceau fut évidemment marquée par le Sénat. Après avoir été quelque peu critique à l'encontre de la Haute Assemblée, il en devint un des plus ardents défenseurs. Eut-il des amitiés politiques au Sénat, notamment au sein du groupe de la gauche démocratique? À l'évidence, puisqu'il retrouva Arthur Ranc, sénateur de la Corse, qui fut conseiller municipal de Paris avec lui en 1871 et qui remplaça Georges Clemenceau à la tête du journal L'Aurore. Je pense aussi à Stéphane Pichon, qui fut sénateur du Jura et surtout ministre des Affaires étrangères du gouvernement Georges Clemenceau. Une amitié née, comme souvent, dans le cadre du journalisme, puisqu'il fut, avec ce dernier, fondateur du journal La Justice en 1880. Ces exemples sont loin d'être exhaustifs et c'est tout l'intérêt de ce colloque que de traiter, au fond, un sujet aussi passionnant. Bon colloque à toutes et à vous tous.
Merci beaucoup au président Larcher et au sénateur Fialaire pour ces mots qui résument très bien la teneur du colloque. Donc, avant de passer la parole à Jean-Noël Jeannet, qui va présider la première séance, je vais vous dire tout le plaisir qu'a la Société des Amis de Georges Clemenceau à organiser de nouveau un colloque académique. Ça fait 25 ans que, tous les 5 ans, nous avons cet honneur et ce plaisir de réunir la communauté des historiens et des chercheurs et des chercheuses pour essayer de creuser encore davantage certains aspects de la vie politique de Clemenceau. Donc le dernier colloque Clemenceau et la paix et celui d'avant qui s'appelait La pensée politique de Clemenceau, vous trouverez les actes de ces colloques sur la table en sortant. Donc il n'y en a que 12 exemplaires de chaque, donc ne les prenez que si vous êtes intéressé, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les prendre. Un autre petit détail pratique, donc en fin d'après-midi, nous aurons la projection du film Le voile du bonheur, qui est tiré d'une pièce de Georges Clemenceau. Ce film dure à peu près une heure, nous commencerons vers 17h30. Après la projection du film, nous aurons un cocktail qui malheureusement ne peut pas avoir lieu dans les locaux du Palais du Luxembourg car tout était complet. Donc nous nous rendrons au Cercle des Universitaires qui est 12 rue Clémence, après à 5 minutes à pied. On prend la rue de Seine et c'est la rue Clément et la dernière à gauche, juste avant le boulevard Saint-Germain. Donc c'est très facile, on ne peut pas se tromper. Donc nous nous retrouverons là-bas vers 18h30, 18h45. Voilà, nous devrons malheureusement refaire une liste de présence cet après-midi, après le déjeuner. Gardez quand même, si vous pouvez, votre badge, ça facilitera votre retour. Donc pour le déjeuner, vous êtes libre de manger où vous voulez dans le quartier. Par contre, nos orateurs restent avec nous et nous aurons le plaisir de les inviter au restaurant du Sénat. Voilà, ces petits mots pratiques étant dit, il ne me reste plus qu'à déclarer ce colloque Georges Clemenceau et ses amis en politique ouvert et passer la parole à Jean-Noël Jeannet. Merci.
Mesdames et messieurs, mes chers collègues, bonjour. Il me revient donc à mon tour de me réjouir de concert avec vous tous de ce nouveau colloque, de remercier la Société des Amis qui y a pourvu, de saluer d'ores et déjà, je le ferai souvent, Sylvie Brodziak, sans laquelle rien n'aurait été possible, et qui est la magnifique organisatrice au premier chef de ces rencontres, et de vous dire que il me paraît que nous avons choisi un bon sujet. Il va nous revenir de le démontrer pendant ces demi-journées successives. Mais déjà, le propos du président du Sénat, tel que, monsieur le sénateur, vous avez bien voulu, et cher ami, vous avez bien voulu nous le donner à connaître, m'a paru poser fort bien un certain nombre de questions. Depuis une ou deux générations, l'historiographie s'est beaucoup intéressée au réseau, tâcher de restituer ce qui, autour d'un acteur, peut constituer le jeu à la fois essentiel et mouvant de ces relations, où se mêlent en effet, le président du Sénat, par votre truchement nous l'a dit, des préoccupations qui sont parfois utilitaires, sont vraiment des amitiés, je ne sais pas, des liens qui se font et se défont au hasard des moments successifs du pouvoir et des décisions, notamment dans les assemblées, puis ce qui constitue des amitiés profonde et durable. Nous aurons l'occasion, je crois, de le constater ici. Et vous avez bien vu déjà le choix des personnalités que nous avons élues. En fait, l'expérience montre qu'il est extrêmement rare que chez ceux qui ambitionnent d'atteindre le pouvoir suprême, une amitié même de longue main perdure. On pourrait en prendre de nombreux exemples. En revanche, les noms que nous avons ici rassemblés témoignent assez de la durée de ces liens et de la force que peuvent avoir des amitiés, surtout lorsqu'elles sont légèrement inégales. Mais je ne veux pas anticiper sur aucune conclusion. Et je me contenterai de dire qu'il y a un dernier aspect dont nous devons nous réjouir, c'est que nous rencontrons ici aussi une part de romanesque. Rien de plus romanesque, en somme, que l'amitié. Je laisse de côté l'amour, ce sera pour un colloque succès ultérieur, peut-être, nous verrons. Pour ce qui est de l'amitié, en tout cas, il y a quelque chose de romanesque dans le rôle du temps et du choix. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Nous connaissons cette phrase fameuse. Je ne sais pas si nous pourrons la réutiliser ici ou là. En tout cas, je pense que Clemenceau, qui aimait tellement la littérature et tellement en particulier les romans, vous savez qu'il s'y est lui-même aventuré avec les plus forts. Donc, par parenthèse, mais je ne me prive jamais du goût de le dire, Raoul Walsh, après la guerre, a tiré un film muet, The Strongest, un film, et c'est un appel que je ne me lasse pas de répéter, un film qui est perdu aujourd'hui, donc si quelque part vous avez accès à une réserve de films de Raoul Walsh, excusez du peu, je vous prie de bien vouloir nous le faire savoir, et au lieu, la prochaine fois que nous nous retrouverons, nous pourrons, après le film que nous verrons tout à l'heure, nous vous expliquerons, film également sauvé du néant, nous pourrons vous montrer Raoul Walsh qui pour l'instant reste un fantôme et qui pourtant évoque aussi de façon romanesque l'amitié et les amitiés autour de l'intrigue qu'avait imaginé dans la ligne d'un naturalisme d'époque Georges Clemenceau. Mais voilà, je ne veux pas empiéter davantage sur le temps qui nous est imparti. et vous dire qu'encore une fois que le musée est très content et très heureux par ma voix de bien vouloir contribuer à cette belle initiative et à renforcer par là même une amitié entre nos deux organisations à quoi nous sommes extrêmement attachés. Je vais maintenant appeler, s'ils le veulent bien, les différents orateurs. Je salue l'arrivée en premier du recteur Chanet, qui est à ma droite, qui va nous parler d'Arthur Ranc. Sylvie Brodiac va nous rejoindre. Philippe Auriol aussi. Ah, cher Jacqueline, je suis ravi de vous voir. Futur président, après moi, je passerai le relais. Plaisir de vous voir. Bonjour. Guy Avizou, donc. Bonjour, heureux que soyez là. C'est ça. Vive les statues, Jacqueline. Beau livre.
Chacun est en face de son chemin.
Eh bien, c'est le coup d'envoi pour de bon. C'est la catégorie des amis de jeunesse et des compagnons de route que les organisateurs avisés de ce colloque ont choisi d'inscrire en premier, ce qui me donne l'avantage, le privilège de vous présenter les orateurs de ce matin, que je me réjouis vraiment de voir rassemblés. Ce sont des amis, mais je ne m'engagerai pas sur le terrain de l'amitié que nous pouvons nous porter. Ça dévirait. Mais ce sont des amis, surtout ce sont des historiens d'excellente facture, vous allez voir, et qui sont des collègues que nous apprécions, que nous saluons, et qui vraiment appellent notre gratitude pour avoir bien voulu, avant les autres, contribuer à ce bouquet que nous allons vous proposer. Je me réjouis de vous présenter, mais je présenterai à mesure, je crois que c'est mieux, je ne vais pas faire un défilé pour commencer. Donc vous attendrez que j'évoque chaque personnalité à son tour le moment venu. Puisque nous parlerons successivement, effectivement, de la question de la personnalité de Jean-Antoine Lafont, de Scheurer-Kestner, de Louise Michel, de Ranc et de Viviani. Les amitiés dont nous allons voir qu'elles se sont tissées de façon assez inégale et qu'elles ont évolué différemment dans le temps, mais de cela nous le savons déjà, nous y sommes préparés. Donc, à toute seigneur, tout honneur. Où est-ce qu'elle est, Sylvie ?
Elle est là.
Ah, sa modestie, là. Très bien. Nous connaissons tous et nous chérissons le talent de Sylvie Brodiac, qui est professeure émérite des universités en littérature française et francophone, c'est très important, et de l'histoire des idées à Sergi Pontoise, qui est docteur en histoire contemporaine et également en langue et littérature française. Je parlais des relations entre la littérature et l'histoire. Vous en êtes, chère Sylvie, évidemment un parangon. Vous pouvez dire une parangone maintenant, non ?
Oui.
Parce que c'est dans l'air du temps. Qui a effectivement beaucoup contribué à orientant sa réflexion sur la littérature francophone et sur l'écriture de l'histoire et des mémoires, à prendre au deuxième degré son intérêt, dois-je dire sa passion, sa curiosité, sa fidélité au Tigre et à Georges Clemenceau, sur lequel elle a, vous le savez, écrit et dirigé de nombreux ouvrages. Je ne les énumérerai pas, mais nous lui savons gré notamment de ce qu'elle anime au premier chef avec Samuel Tomei et avec notre ami Seguela. Elle dirige et anime cette année Clemenceau, qui en est maintenant à son 7e, on prépare le 8e numéro, et dont chacun ici sait le prix, l'avantage. Plusieurs d'entre vous y ont collaboré. Nous tenons beaucoup à ce rendez-vous annuel autour de cette publication, au CNRS Éditions, que je vous invite, si vous ne la connaissez pas, à consulter, parce que la consulter, c'est l'apprécier. Et Sylvie joue ce rôle très important. Elle a aussi animé le dictionnaire Clemenceau, qui pour nous demeure dans la collection fameuse bouquin, un ouvrage essentiel. J'ai eu le privilège de l'accompagner dans la publication de la correspondance de Clemenceau. Je viens d'apprendre que la gourmandise que le public peut avoir pour ses livres en a provoqué l'épuisement et que par conséquent, il va falloir obtenir de l'éditeur que nous rééditions. Il y a encore un peu de numéro du dictionnaire, mais que la correspondance est épuisée. Et comme depuis lors, nous avons trouvé beaucoup de lettres nouvelles qui ont émergé, c'est l'avantage de publier une première édition d'une correspondance, ce sera l'occasion de rendre hommage de façon encore plus vivante à ce magnifique épistolier qu'a été Georges Clemenceau. Je ne dirai pas davantage, car votre modestie en souffrirait, chère Sylvie. Nous attendons avec gourmandise pour nous parler de Jean-Antoine Lafont, qui n'est peut-être pas le plus connu de ses amis que nous évoquons, mais dont vous allez faire surgir pendant 20 minutes, c'est ça ? Et mon rôle maintenant, désormais, sera essentiellement de jouer le régent de collège et de dire que quand ça sonnera, on arrêtera. Donc 20 minutes de plus, au maximum, 20 minutes, et peut-être, dans votre cas, une toute petite indulgence de plus, mais enfin, je ne l'annonce pas, parce que sinon, ça deviendrait une contagion. Pour 20 minutes, nous vous écoutons, chère Sylvie, avec beaucoup de gourmandise, de curiosité et d'amitié.
Merci, Monsieur le Président. Je tiens également à remercier mes collègues là, qui ont répondu à mon appel pour organiser ce colloque. Alors, Antonin Lafont. J'apprends avec une amère tristesse la mort d'un vieux compagnon des luttes de notre jeunesse, Antonin Lafont. Ancien conseiller municipal, ancien député du 18e arrondissement de Paris et qui auparavant, pendant le siège, avait été le collaborateur de Clemenceau à la mairie de Montmartre. Il était resté intime avec Clemenceau et il était aussi l'ami de Gambetta et d'Adrien Hébrard, le directeur du Temps. Hébrard, hier, écrivait de lui, et j'ai plaisir à citer ses lignes, « Dans les diverses situations qu'il a occupées, Lafont avait acquis l'estime et la sympathie de tous ses confrères et collègues, comme de toutes les personnes qui s'étaient trouvées en relation avec cet excellent homme. » La vie n'avait pas été douce pour Lafont. Depuis de longues années, il était atteint d'une infirmité incurable, mais ses cruelles souffrances n'avaient altéré en rien ni sa sérénité d'âme, ni même sa bonne humeur. Ce ferme républicain, ce lutteur énergique, était un stoïque gai, Arthur Rank. Commencez par la nécrologie de Jean-Antoine Lafont, écrite par Arthur Rank en première page de l'Aurore du 9 juin 1908, soit 2 jours après son décès à Beauchamp, commune de Taverny dans le Val-d'Oise, invite à tenter de mieux connaître l'énigmatique et discret ami de Georges Clemenceau. Énigmatique, il l'est tout d'abord par son lieu de naissance. Où est-il né ? Si l'on analyse le registre d'état civil de la ville de Toulouse, en 1835, Jean-Anne Antoine est né le 2 avril à 7 heures du matin au 100 de la rue Grande Rue Saint-Michel. Vous excuserez, Toulouse est toujours en travaux, n'est-ce pas, comme le suggère Nougaro. Et il est le fils de Émile Lafont, menuisier, et de Étiennette, Marie Oudot, ménagère. En marge de la déclaration, et se battant rajouter sur décision du tribunal de Toulouse, le 17 février 1852, la rectification de l'orthographe du nom et sa transformation de Lafont 2F à Lafont F-O-N-T. Cette correction pourrait s'entendre comme une erreur commise par l'officier d'état civil, recopiée par Émile, qui maîtrisait peu l'orthographe, puisqu'il signe notamment Émile avec 2 L, il redouble les L. La correction viendrait alors de Jean-Antoine, qui à 17 ans a étudié au lycée, cela le laisse supposer. Cependant, l'énigme est réactivée par Clemenceau lui-même, qui dans son ouvrage « Claude Monet et les nymphéas », publié en 28, écrit à propos de sa rencontre avec le peintre Monet, « C'est au quartier latin que je fis sa connaissance, des amis communs nous réunissaient, quelquefois le docteur Paul Dubois de Nantes, qui alla s'installer rue de Maubeuge, aussitôt sa thèse passée, Antonin Lafont de Castelsarrasin, qui fut député de Paris. À ses 2 camarades, il avait donné quelques marines. Sachant qu'il y a 67 kilomètres qui séparent Toulouse de Castelsarrasin et que les témoins de Émile Lafont sont domiciliés près de Émile et Étiennette, je pencherai pour un trou de mémoire du tigre. Néanmoins, le prénom de Jean-Antoine Lafont est instable.
Il semble, à la lecture de sa signature dans le Temps ou dans les registres de l'Assemblée nationale, que Jean-Antoine est le prénom officiel, alors qu'Antonin est celui réservé aux amis. Et parmi ceux-ci, nous précise Ranc, il y a eu Clémenceau. Lafont, 19 rue Capron. C'est à Paris, sous le Second Empire, que se rencontrent ces deux jeunes provinciaux républicains. Quand Lafont est-il monté à la capitale? On ne peut l'identifier, mais certainement de bonne heure. Sa signature apparaît dans le Temps le 27 novembre 1862. Il a 27 ans. Il y tient jusqu'au 12 septembre 1870 la rubrique « Bulletin commercial », renommée plus tard « Parti commercial ». Dans celle-ci, il recense, sans aucun commentaire, le prix des matières premières alimentaires, la farine, l'huile, le cours du coton, de la soie. Appliqué, il note ses chiffres, parfois aux côtés de grandes plumes, comme Gustave Flaubert, qui, le 28 novembre 1862, publie son portrait de Hannibal dans Salambo, extrait de Salambo, qu'il a publié le 24 novembre. Quand les affaires ralentissent, Lafont énonce laconiquement les résultats d'épreuves sportives. Lafont, qui a abandonné ses études de médecine, appartient avec Clémenceau, arrivé à Paris en 1861, à la jeunesse estudiantine du Quartier Latin, qu'Étienne Arago reçoit dans son salon. Chez lui, il accueille la jeune opposition républicaine, dont Eugène Proto, Jules Méline, Arthur Ranc. Ce dernier précise dans sa nécrologie que Lafont était un ami de Gambetta. Il aurait donc appartenu à ce que Nathalie Bayon nomme le groupe gambettiste, composé entre autres par Scherer-Kessner et Ranc. Aucun des collègues historiens gambettistes consultés n'a retrouvé sa trace. Il faut dire qu'il se différencie par bien des traits de ses camarades, même s'il partage avec eux ses racines provinciales et la même classe d'âge. D'une part, il est d'origine modeste. Dans ce groupe, dont les membres appartiennent, je cite l'historienne, le plus souvent à la petite bourgeoisie récente, la majorité appuyée le plus souvent sur le petit commerce et d'éléments issus de dynasties bourgeoises confirmées. Il n'a pas fait non plus son apprentissage à politique au sein de sa famille, même élargie, comme ont pu le faire Clémenceau ou Alain Target, issus de dynasties républicaines. D'autre part, si comme eux, il est bachelier, il ne poursuit pas ses études à l'université et malgré sa volonté d'installer la République, ne connaît pas la même ascension sociale et aisance économique. De plus, souffrant d'un handicap, il est boiteux. Sa fragile santé fait de lui un homme discret, peu affirmé dans le parti. À la différence des autres membres du groupe, Lafont a besoin de plus de solidarité et de fidélité en amitié. La lettre que Clémenceau envoie le 27 octobre 1864 à Scherer le laisse supposer. Lafont doit partir prochainement pour Strasbourg. Il ira vous voir, causer avec lui et voyez si vous pouvez lui être utile. Je le désire vivement, mais je crains que votre bonne volonté ne soit impuissante. D'autres missives, envoyées notamment des États-Unis, témoignent de l'appartenance de Lafont à cet entre-soi créé au Quartier Latin, dans les cafés, dans les salons du premier étage du Procope, lieu de conférences et d'interminables discussions propices à la création du cercle de relations indispensables pour entrer dans le monde fermé de la politique. Ainsi, le 6 septembre 1867 de New York, Clémenceau apprend à sa mère parisienne, Louise Jourdan, femme de Gustave Jourdan, figure de l'opposition républicaine, que le pauvre, je cite Clémenceau, va se marier, pauvre garçon va se marier, et qui lui propose de faire la correspondance américaine du Temps. Lafont, bien, je cite Clémenceau, indolent, selon Clémenceau, est donc un ami précieux puisque c'est lui, en le recommandant à Hébrard, qui lui permet entre 1869 et 1870 de toucher 150 francs par mois. Ce qui n'est pas négligeable pour un ex-professeur de français, Clémenceau, qui est revenu des États-Unis et qui vit désormais chez ses parents, avec femme et bientôt enfant. En effet, jusqu'en 70, de retour en France, passant par Paris, Clémenceau présente son épouse, Mary Plummer, à son amie, mariée depuis 3 ans à Hélène Sier. Les deux couples sympathisent fortement et pendant les quelques mois où Clémenceau reste à l'Aubry en famille, ils entretiennent une abondante correspondance, encore inédite, avec celui qui devient un ami intime et chez qui il loge quand il vient à Paris. Dans ses réponses amicales, Clémenceau révèle sans phare leur quotidien. Le 8 avril 1970, il félicite à sa façon son ami parisien devenu père d'un petit Armand. Avec tendresse et humour, il sollicite Malthus pour répondre à la question que tout jeune marié se pose : doit-on faire des enfants ? Son ironique réponse annonce la conception de la vie qu'il développera plus tard dans ses écrits, celle-ci est avant tout une lutte amenée, ponctuée par de petits bonheurs et de grandes souffrances. Le post-scriptum est également riche d'informations, tout d'abord d'ordre privé. Marie Pleumeur, qui attend Madeleine, est impatiente d'accoucher. Et l'ami Lafont, à Paris, demeure son commissionnaire pour ses vêtements et chapeaux et son fournisseur en thé, sa boisson favorite. Clémenceau est endetté et envoie 500 francs à Alphonse Bardot, avoué à Nantes, son mandataire, pour rembourser la somme de 25 000 francs, empruntée le 13 avril 1869 à Lafont, à qui a été versée une partie de son héritage. Puis d'ordre politique. L'allusion à ces paysans qui aimeraient pouvoir lire le bonhomme Manceau, devenu en 51 la feuille du village et qui s'est opposé à Louis-Napoléon Bonaparte, laisse supposer une forte sensibilisation à la République sur les terres des Clémenceau. Les lettres suivantes mêlent de la même façon informations intimes et considérations politiques. Ainsi, le 22 avril, Clémenceau compte un accident de cabriolet avec Marie enceinte. Craint la dépression postpartum pour Isabelle Sier, s'inquiète encore du versement à Bardot, n'arrive pas à trouver une bonne d'enfant, mais surtout fait partager l'atmosphère qui règne à Féole avant le plébiscite du 8 mai sur les réformes libérales faites par Napoléon III. Plébiscite contre lequel Clémenceau s'active. Je cite Clémenceau, « On s'occupe beaucoup à Féole du plébiscite. Nous allons avoir deux réunions. Nous avons 400 électeurs dans la commune sur lesquelles il y aura 300 votants et je crois que nous aurons bientôt près de 200 noms. » Il est à noter que le temps passant, une certaine tension due aux dettes que le futur tigre peine à rembourser modifie le ton des lettres. Clémenceau est aux abois et ne peut honorer les échéances accordées. De plus, ses missives manifestent son impatience à en revenir dans la capitale pour reprendre le combat contre le Second Empire que mène parfois non sans humour son ami Lafont. L'épisode de l'encrier de Laboulé, qui prône le oui au plébiscite, rapporté par Francis Magnard dans le Figaro du 2 mai 70, laisse en penser que le discret Lafont n'était pas un triste compagnon. Il y a 4 ans, M. Laboulé se porta comme candidat à la députation dans le Bas-Rhin. Il échoua, mais ses partisans, pour consoler sa défaite, lui firent cadeau d'un bel encrier en argent. Cet encrier lui fut présenté par M. Jules Ferry, depuis député, et M. Lafont, qui tient autant la partie commerciale. C'est lui qui nous apprend que si les Suifs sont fermes. Je ne pense pas qu'il ait d'autres titres littéraires et politiques. Il a l'air d'ailleurs d'un aimable homme, très fancétésiste à ses heures, puisqu'il s'est présenté chez M. Laboulé et l'a sommé de rendre l'encrier, attendu qu'il conseille de voter oui et qu'il est devenu un suppôt du tyran. Il va sans dire que M. Laboulé a refusé et il paraît qu'il a poussé la condescendance jusqu'à ne pas mettre M. Lafont à la porte. Mais le spirituel rédacteur de la partie commerciale du temps ne s'en tient pas là. Il va sommer par huissier M. Laboulé d'avoir à rendre l'encrier sous peine de payer 50 francs par jour de retard. Dès la déclaration de guerre à la Prusse, en juillet 70, Lafont, qui habite au 19 rue Capron, dans le quartier des Batignolles, prend une part active à l'organisation de la Légion de garde nationale parisienne du 18e. Mais il ne peut s'enrôler dans un des bataillons du fait de son infirmité. Piaffant d'impatience, Clémenceau le rejoint le 1er septembre 70. L'appartement est petit, le couple Lafont, leur fils Armand et Clémenceau se serrent. Le 2 septembre, c'est Sedan. À Paris, on apprend la défaite le lendemain. Le 4 septembre, Lafont, accompagné de Arthur Ranc, rencontré par hasard, entraîne Georges Clémenceau au Palais Bourbon. Propulsé, je cite Georges Mercer, propulsé à l'intérieur du palais, il crie de tout son souffle, Clémenceau, monte à l'assaut du fauteuil présidentiel, est un des plus acharnés à demander la déchéance de l'empereur. Puis, suivant Gambetta et la foule, il se dirige vers l'hôtel de ville, participant à l'enthousiasme, à la joie du peuple qui crie « Vive la République !» Cet épisode insiste, à juste titre, sur le rôle déterminant de Lafont, qui par son enthousiasme et sa maîtrise du terrain, permet à Clémenceau de vivre un moment historique et désormais d'être partout, il se passera quelque chose. À l'hôtel de ville, Gambetta demande un instant de silence et propose par acclamation de nommer maire de Paris le vieux républicain Étienne Arago. L'acclamation est unanime. Le 7 septembre est publiée dans l'Officiel la liste des maires provisoires nommés par ses soins. Le 18e arrondissement est attribué à Georges Clémenceau, docteur médecin. Jean-Antoine Lafont, avec Simoneau, est un de ses deux adjoints et, aux côtés du maire de Montmartre, fait son entrée en République et co-signe le 23 septembre l'appel à la résistance au nom de la nation, placardé sur sa mairie, à l'angle de la rue et de la place des Abbesses. 30 ans d'amitié et de fidélité politique. Fondamentalement en accord avec les idées de Georges Clémenceau, supportant son fougueux tempérament et impressionné par son charisme, Lafont l'accompagne dans sa carrière municipale jusqu'en 1875, n'hésitant pas à le suivre lors de ses coups de sang. Les élections organisées par Arago confirment le 5-7 novembre 1971 Clémenceau maire du 18e et Lafont son adjoint, lui octroyant deux autres adjoints, Louis-Simon Dereur et Charles Jacquelard, tous deux révolutionnaires et futurs communards. Jean-Antoine Lafont seconde efficacement Clémenceau, qui, dans la capitale assiégée, essaie de secourir les Parisiens victimes de la faim d'un très rude hiver. Lafont représente le 18e aux diverses commissions lancées par Ferry, nommé maire de Paris le 15 novembre. Ainsi, début janvier 1971, il fait partie de la commission municipale chargée d'aller au ministère de la Justice discuter de la question des loyers. Et une grande enquête sur les logements vacants lui est confiée. Déçu comme Clémenceau par l'action du maire et les décrets du gouvernement qui portent atteinte notamment à la liberté de presse et d'expression, il co-signe avec lui et les deux autres adjoints une lettre qui se désolidarise de la politique gouvernementale et menace d'une démission en bloc. Lorsque Clémenceau est élu député de Paris le 8 février, Lafont le remplace à la mairie. C'est la première fois qu'il est seul aux affaires. Mais il est difficile de juger son action, car le début mars, Clémenceau revient de Bordeaux. Soudés, ils vont ensemble affronter les événements de la Commune et ses conséquences. Le 10 mars 1971, Clémenceau tente de persuader la garde nationale de rendre au général Vinoy les canons de la butte Montmartre. C'est un échec. Le jour suivant, Lafont réfute la rumeur qui fait de sa propre personne l'allié des insurgés et l'organisateur d'une municipalité autonome sécessionniste. Dans une lettre envoyée au Moniteur universel, il dément les fausses nouvelles. Le 18 mars, il n'apparaît pas dans la folle journée. Il est évident que Lafont est présent auprès de Clémenceau, mais avec son handicap, ne peut courir avec Clémenceau pour empêcher les meurtres des généraux Lecomte et Clément Thomas. En revanche, il lui manifeste son indéfectible fidélité en signant avec lui la déclaration qui précise qu'en attendant les élections, les bons citoyens ne doivent pas répondre aux appels, je cite, qui leur seront adressés sans titre et sans droit. Jacquelard a hésité, Dereur est passé de l'autre côté. De plus, quand le 22 mars, Clémenceau est expulsé de sa mairie, Lafont rédige une proclamation pour les habitants, fortement inspirée par le maire, Clémenceau, mais souligne Georges Wurmser à l'écriture moins nerveuse destinée à ne pas anéantir toutes les possibilités de négociation avec les adversaires. Cette réponse à Thiers, écrite pour, je cite, « éviter un conflit dont les résultats désastreux épouvantent », souligne le rôle essentiel qu'a Lafont en tant que premier adjoint. Comme Clémenceau, il refuse la révolution, tout en affirmant d'une part sa solidarité avec les plus humbles de la mêlée sociale et son plus grand respect des lois et de l'ordre républicain afin d'éviter le chaos qui peut nuire aux plus faibles. Lafont et Clémenceau sont idéologiquement et politiquement en parfaite symbiose. Leur duo est perçu comme tel par l'adversaire. Et Lafont, le 24 mars, est arrêté chez lui, après perquisition, pour, je cite, « excitation à la guerre civile », dans le prolongement de la manifestation du 22 mars, soutenue par Raoul Rigaud. Clémenceau, lui aussi, sous le coup d'un mandat d'amener, en réchappe. Lafont, comme Jacquelard, passent 4 heures en garde à vue et sont relâchés. Choqués et révoltés d'avoir pu être supposé fauteur de troubles, le dangereux suspect qu'est Lafont s'exprimera plus tard dans le temps, le 29 juillet 1871, en réponse au journaliste Tiennet, qui a l'audace de le dénoncer avec son ami et ancien collègue Clémenceau, comme, je cite Tiennet, « ayant été les meneurs de la Commune dans tout ce qu'elle avait de plus sinistre ». Le 26 mars, aux élections municipales, Clémenceau et Lafont ne sont pas élus. Le maire de Montmartre démissionne, alors de son mandat de représentant de la Seine à l'Assemblée nationale, et rejoint l'Aubrée pour réfléchir et se reposer. Lafont reste, lui, à Paris. Aucun des deux n'a l'intention de quitter la vie municipale. Ils se représentent et le 23 juillet sont réélus. Clémenceau, conseiller municipal du quartier de Clignancourt, et Lafond du quartier de la Goutte d'Or. Deux jours avant, Georges Clémenceau avait écrit une très longue lettre, à la fois tendre et comminatoire. Dans celle-ci, il met affectueusement Lafond sous pression parce qu'après la terrible année, dit Clémenceau, qu'il vient de passer, il veut organiser de reposantes vacances en famille. Mais Lafond n'a pas l'argent pour aller au bord de la mer. Et Clémenceau s'ingénie à lui suggérer, auprès de qui emprunter, tout en lui apportant une petite aide financière malgré ses dettes personnelles à rembourser. Cette lettre qui s'achève par « Puisse le mois que nous allons passer ensemble et qui, je l'espère, sera tel que nous le souhaitons pour nous faire oublier les misères de cet hiver. Il me semble aujourd'hui que tout cela est un rêve. Ah, mon pauvre camarade, je t'aimais bien auparavant, mais ces épreuves communes ont fièrement cimenté notre amitié. Tu as dépensé ta pauvre santé sans compter, toi si amoureux du sommeil du matin en particulier et du repos en général. » Et tu hésiterais une minute à refaire cette partie de toi-même qui se peut encore réparer ? Heureusement que je suis là et que je ne te permettrai pas de faire cette sottise. Je te le répète, fais tes préparatifs sur le jour du départ, car le jour du départ n'est pas loin. C'est une émouvante déclaration d'amitié. Le séjour au Pouliguen s'est fort bien passé et Clémenceau a pris bien soin de son ami. De retour à Paris, l'un et l'autre œuvre dans des commissions différentes au sein du conseil municipal. Ainsi, le 16 décembre 1871, c'est lui, Lafond, qui est délégué par Clémenceau pour convaincre Victor Hugo de se présenter comme représentant de Paris à l'élection législative partielle du 7 janvier 1872. Hugo fait part de cette visite et de son refus. Réélu en 1974, Clémenceau, quartier de Montmartre, Lafond, quartier des Grandes Carrières, ont à cœur de décliner leur programme municipal. Je vous le laisse le lire. Nous voulons la République, etc., parce que je n'ai pas le temps de le lire. Pendant ses mandats, jusqu'en 1881, Lafond s'emploie à réaliser ce programme d'extrême gauche qui priorise l'école publique, la lutte contre les inégalités, la méritocratie comme ascenseur social, les libertés et la justice dans la République laïque. Après la démission de Clémenceau de la présidence du Conseil le 24 avril 1876, président du Conseil municipal, la personnalité de Lafond s'étoffe politiquement. Et sans devenir un ténor, il s'affirme et défend avec conviction leurs valeurs communes, celles qui vont imprégner le programme du comité radical du 18e arrondissement de Paris, accepté par Clémenceau pour les élections législatives de 81, lesquelles entérineront la rupture avec les gambettistes. L'inventaire non exhaustif de son action au cours de l'année 1880, qui est celle de son plus grand rayonnement, sera lisible dans les actes du colloque parce que cela est trop long. Le 18 décembre 1881, élu trois fois député dans une chambre à 74,13% républicaine, Clémenceau choisit la seconde circonscription du 18e arrondissement de Clignancourt, celle où il a été le plus difficilement élu, et incite Lafond à se présenter dans la première, dans laquelle il a triomphé. L'ami de toujours, qui est présenté comme, je cite, « radical nuance Clémenceau », est élu le 18 décembre 1881, député de la Seine, arrondissement du 18e, circonscription des Grandes Carrières. Le 19 décembre, le résultat est proclamé à la justice. Inscrit au groupe d'extrême-gauche, il suit sans faillir les orientations données par Clémenceau. Le tempo de sa carrière parlementaire est calqué sur celui de son ami. Il ne prend que très rarement la parole et contribue par son vote à la chute des ministères Gambetta, se prononce pour la séparation de l'Église et de l'État, contre l'expédition du Tonkin. Il y a un magnifique bilan le 26 septembre 1884 dans la justice. Il devient secrétaire du comité radical socialiste anti-opportuniste et il mène une vigoureuse campagne ensuite pour sa réélection. Dans ce deuxième mandat, il est classé 19e sur la liste des candidats radicaux en ballottage. Il est réélu député de la Seine à la 21e place le 18 octobre 1884. Dans ce deuxième mandat, c'est exactement la même chose. Il intervient peu dans les débats, il ne monte quasiment pas à la tribune. De façon personnelle quand même, le 23 juin 1886, il fait une proposition de loi tendant à l'abrogation des lois contre l'international. Le 8 mai 88, il adhère à la Ligue républicaine anti-plébiscitaire. Et le 24 novembre, il attaque Lézan, qui propose de transférer au Panthéon les cendres de Alphonse Baudin. Il dénonce sa prétention à Lézan à être un sincère républicain, lui qui, dit-il, est l'allié des bonapartistes. En 89, Lafont se présente, 1889, aux législatives, et il perd contre son ennemi boulangiste, Lézan. Je conclus. Alors, voilà, battu. C'est la déclaration qu'il fait. Et vous voyez, citoyens, à bas les traîtres, vive la patrie, vive la République. En 1889, Lafont quitte définitivement la politique. Son ami Clémenceau, élu à Draguignan, y reste. Sont-ils restés en contact ? Nulle trace de Lafont dans la correspondance, ni dans les écrits du Tigre, après le 10 novembre 1872. Est-ce que parce que sa santé s'est détériorée qu'il a dû progressivement s'éloigner ? Ranke affirme le contraire, vous l'avez vu, et fait de lui un intime de Clémenceau jusqu'à la fin de sa vie. Jean-Antoine Lafont meurt le 7 juin 1908. Voici ce qui est marqué sur son acte de décès. Retraité de la ville de Paris, son décès est déclaré par Émile Lafont, receveur de l'octroi à Paris âgé de 35 ans, et laisse supposer que Antoine, Jean-Antoine a eu un deuxième enfant prénommé comme son grand-père de Toulouse, Émile. C'est l'ami Ranke qui écrit sa nécrologie dans l'Aurore, peut-être parce que l'ami Clémenceau, devenu président du Conseil, ne peut le faire. Deux mois plus tard, le 10 août 1908, Ranke décède à son tour. C'est alors l'ami Maxime Villaume qui, dans un article intitulé « Ranke journaliste », rappelle en souriant comment, en 1870, les potaches qu'ils étaient ont su faire chanter à tout le Quartier Latin grâce à un entrefilet de Gaston Vassy dans la feuille éphémère « La cloche ». Rendez la criée, rendez la criée, l'encriée de la boulée.
Comment les lettres ont-elles émergé, celles qui sont inédites ?
Une vente a été signalée et la Bibliothèque nationale les a acquises. Elles sont à la Bibliothèque nationale, 28 lettres.
Elles sont arrivées depuis la famille Lafont, probablement des descendants, c'est ça ?
Impossible de retrouver des descendants. Impossible.
Non, mais je veux dire, les lettres ont dû être vendues par la descendance.
Oui.
En tout cas, c'est un des mystères que nous
avons. Voilà, c'est un des mystères
que nous avons pu élucider. Merci, merci beaucoup. Nous ouvrirons les débats, si vous voulez bien, et vos réactions à la fin des différentes communications. C'est ce qui est le parti qui a été pris. Merci, merci beaucoup d'avoir fait surgir cette personnalité. Qu'est-ce que c'est, ça, c'est...
Non, pardon, excusez-moi. Non, ça, c'est le... Pardon, Guy.
Alors, ce sont tous des descendants Vamser, c'est ça ?
Voilà, ce sont les descendants.
C'est une fidélité à...
Alors, oui, le prochain... Est-ce qu'il y a une présentation ?
Je ne comprends pas pourquoi...
Je ne pense pas. Si c'est Philippe... Non, Philippe...
Non, mais je sais, mais qu'est-ce que c'est... Pardon.
Non, mais voilà.
C'est une erreur.
Quoi ?
C'est un charme, mais c'est une erreur. Ce que nous venons de voir.
C'est juste le fond de l'écran d'ordinateur qui sert de support.
Nous sommes très heureux de saluer cette famille, déjà clémencistes. Merci. J'en viens maintenant à ma deuxième communication que nous attendons également avec un grand intérêt, consacré à Auguste Scheurer-Kestner. Et là, nous allons sûrement retrouver du romanesque. Il n'y a pas eu seulement de l'amitié, il y a eu aussi de l'amour qui a circulé. Et nous avons le grand privilège d'écouter Philippe Auriol. Vous savez qu'il est docteur ès lettres. Il a enseigné à l'université Paris 3 Sorbonne. Et il anime aujourd'hui un institut supérieur, je ne me trompe pas, de communication, que vous avez créé, qui s'appelle le CESACOM. Vous avez travaillé beaucoup sur la littérature de l'époque, le mouvement décadent et symboliste, sur l'anarchisme, l'engagement politique des écrivains, et plus particulièrement sur Bernard Lazare. Vous avez offert une très belle biographie de Bernard Lazare, dont chacun sait le rôle éminent qu'il a eu dans l'affaire Dreyfus, et pas seulement pour des raisons familiales. Vous avez réédité récemment cet ouvrage, cette biographie, d'une façon tout à fait précieuse aux éditions du Cendre. Vous annoncez aussi d'ailleurs la publication prochaine des œuvres complètes de Bernard Lazare, qui sera assurément une contribution très importante, indirectement, aux relations entre Clémenceau et Dreyfus, l'affaire Dreyfus. Les articles également, vous en êtes occupé de façon précieuse, la publication des articles de Georges Clémenceau sur l'affaire Dreyfus. Et vous avez tout récemment offert, on la trouve, ce livre sur les tables des libraires, publié les œuvres complètes d'Alfred Dreyfus, qui est probablement la meilleure façon possible de lui rendre hommage. Et vous préparez, je veux être complet, une édition des œuvres complètes de Félix Fénéon et une nouvelle biographie de l'inventeur du néo-impressionnisme. Je n'ai pas pu être complet compte tenu de la profusion de vos activités intellectuelles, mais c'est assez pour que je manifeste le plaisir que nous avons à vous écouter parler pendant 20 minutes. On a légèrement débordé, c'était un accord secret avec Sylvie. Pendant 20 minutes, rigoureusement, de l'amitié de Clémenceau et de Auguste Scherer-Kestner. Nous vous écoutons, cher ami, avec beaucoup d'intérêt.
Avant de commencer, si vous permettez juste, je ne m'occupe plus du tout d'un institut supérieur de communication, mais j'anime maintenant, et d'ailleurs si vous n'êtes pas venu, venez nous voir, la Maison Zola Musée Dreyfus, qui est donc la Maison de Zola restituée et le premier et le seul, assez curieusement, 130 ans après l'événement, musée exclusivement consacré à l'affaire Dreyfus. Voilà, donc c'est chez Zola, à Médan, c'est un peu loin, mais c'est très beau. Et sinon, je vais vous décevoir aussi parce que je n'aurai pas ici, devant vous, devant une telle assemblée, l'audace et la prétention de vous narrer par le menu cette belle amitié dont vous connaissez assurément mieux que moi les détails. Spécialiste de l'affaire Dreyfus, sans doute attend-on de moi de faire un saut dans le temps et de revenir sur la célèbre affaire dans laquelle Scherer-Kestner et Clémenceau eurent un rôle, vous le savez, si déterminant, et on le sait aussi, dans laquelle l'engagement du premier détermina en grande partie l'engagement du second. C'est en 1862, à Sainte-Pélagie, que les deux hommes s'étaient rencontrés et avaient sympathisé, liés par leur détestation de l'Empire, leur idéal républicain et leur admiration pour Auguste Blanqui. Après certaines mésaventures journalistiques et typographiques qui verra s'abîmer dans la Seine la presse achetée en Belgique, les deux hommes étaient devenus amis, s'étaient fréquentés régulièrement, et c'est à de très nombreuses reprises que Clémenceau avait fait le voyage pour Tannes, pour voir Scherer-Kestner et voir aussi, bientôt et peut-être de plus en plus, sa belle-belle-sœur, Hortense Kestner, dont la main lui sera refusée par un père à qui ne pouvait suffire la pureté et la profondeur des sentiments de l'amoureux. Ami, grand ami même, comme le dira Clémenceau en 1908, lors du discours pour l'inauguration du monument Scherer-Kestner. En Scherer-Kestner, Clémenceau aimait particulièrement l'homme pondéré, courtois, d'esprit discipliné, dont la parole bienveillante se nuançait parfois de timidité, mais aussi et sans doute surtout le combattant pour la République, le, je cite Clémenceau à chaque fois, le soldat du droit, c'est-à-dire le vrai fils de la Révolution française. En 1870, les deux amis s'étaient retrouvés à Paris, puis en Alsace ravagée par la guerre, avant de s'éloigner l'un de l'autre, République opportuniste obligeant. Les attaques contre Gambetta, celles contre Ferry, son neveu, avaient agacé Scherer-Kestner, qui jugeait son ami fini, prenant place, comme il le dit, à la tribune des remplaçants qui ne remplacent jamais qu'eux-mêmes. Mais une telle amitié ne pouvait s'éteindre. Et quand, fin octobre 1897, le voilà mon saut dans le temps, Scherer-Kestner, sénateur inamovible maintenant, vice-président du Sénat, fut attaqué de toutes parts, traître, gaga, naïf dupé par des canailles, allemand, prussien, scélérat, aliéné, idiot, vieillard gâteux, que tout le monde et ses amis même se détournaient de lui, Clémenceau fut là, portant à son ami de jeunesse, comme le dira Scherer-Kestner dans ses souvenirs, le premier secours. Clémenceau, on le sait, vieux débutant de la presse en mettant de côté l'épisode du matin depuis sa défaite aux élections de 93, devenu, comme le dira justement Paul Brulat, le plus brillant et le plus fécond journaliste de son temps, était alors directeur politique de l'Aurore, journal juste créé, et qui rassemblait, à côté de jeunes gens proches des mouvements symbolistes et anarchistes, une bonne partie de la rédaction de l'Intransigeant qu'Ernest Vaughan avait emporté dans ses bagages en se séparant de Rochefort. En fondant l'Aurore, au début d'octobre 1897, il n'avait surtout pas été question, ni pour Vaughan, ni pour Clémenceau, de s'engager sur la question Dreyfus, qui était alors revenue au premier plan de l'actualité, question à laquelle il ne voulait s'intéresser que pour ce qu'elle pouvait représenter politiquement et socialement. Ainsi, quand Bernard Lazare, justement, avait été approché pour collaborer à cette toute nouvelle Aurore, Clémenceau avait posé pour condition qu'il n'y parlerait pas de l'affaire Dreyfus. Lazare, on s'en doute quand on le connaît un peu, n'avait pas tenu parole sans pour autant trahir sa promesse, donnant quelques articles qui, sans jamais parler ou prononcer même ou écrire même le nom de Dreyfus, ne parlait finalement pas d'autre chose. Mais le journal n'avait pas suivi et ainsi le premier papier consacré à l'affaire, le 31 octobre, signé de Philippe Dubois, un ancien de l'Intransigeant, avait été une attaque en règle contre Scherer-Kestner. Je lis cet article dont on parle souvent mais qu'en fait on a peu lu. L'attitude du vice-président du Sénat apparaît chaque jour plus singulière et plus inexplicable. Il prétend, d'une part, avoir acquis dès le mois de juillet dernier la certitude de l'innocence de Dreyfus, mais quand on lui demande sur quel fait inconnu sa conviction est basée, il s'enferme immédiatement dans un mutisme complet. « Je ne puis pas, je ne dois pas actuellement le dire », répond-il. Eh bien, de deux choses l'une, et nous défions M. Scherer-Kestner d'échapper à ce dilemme. Ou il possède les preuves de ce qu'il avance depuis l'époque dont il parle, et dans ce cas, il est coupable de ne pas les avoir produites dès le premier jour, ou il ne les possède pas, comme tout le démontre d'ailleurs, et il se moque de nous. Comment il pourrait établir que le capitaine Dreyfus a été victime d'une épouvantable erreur judiciaire, et cela depuis plus de 3 mois, il se serait tu, alors qu'un innocent continuait à subir injustement la plus affreuse des détentions? Mais ce serait infâme. Monsieur Scherer-Kestner, malgré le grand âge qui pourrait avoir considérablement affaibli ses facultés, serait sans excuse. Dans tous les cas, le silence du vice-président du Sénat commence à exaspérer l'opinion. Nous croyons qu'il ne tardera pas à regretter de s'être fourvoyé dans cette galère. Ne commence-t-on pas déjà à rappeler ses origines germaniques et ses liens de famille avec le trop fameux Bleichroder ? Ne fait-on pas remarquer que s'il a des usines à Belfort et à Mulhouse, il en possède aussi dans le Hanovre, et que dans ces conditions, il est obligé à certaines concessions envers l'Allemagne? Ne se demande-t-on pas, enfin, s'il est dupe ou complice, qu'il prenne garde? De même, Clémenceau, sollicité par Arthur Rank, qui lui avait parlé de sa conviction de l'innocence de Dreyfus et l'avait invité, pour en savoir plus, à aller rencontrer Scherer-Kestner, n'avait pas suivi ce judicieux conseil. Ou en tout cas, ne l'avait pas suivi dans un premier temps. Car en effet, après la publication de l'article de Dubois, celui que nous venons de citer, si terrible, Clémenceau, qui n'avait certainement pas oublié la meute de 1893, avait écrit à son vieil ami « Je lis ce matin dans l'Aurore un article sur toi que je ne peux laisser passer sans réponse, puisque je collabore à ce journal ». Il lui avait annoncé sa venue, l'avait rencontré et avait publié à la suite 2 papiers prudents, mais qui rappelait que le vice-président du Sénat n'était pas, je cite Clémenceau, « homme à s'engager légèrement » et qu'il lui avait fait forte impression lors de leur entrevue, tant était nette son attitude, résolue sa parole, profonde sa confiance dans les moyens qu'il a de faire éclater la vérité. Scherer-Kestner lui avait expliqué, en réponse à Dubois, information qu'avait relayée Clémenceau, qu'il parlerait bientôt, mais qu'il ne pouvait le faire encore. « J'ai dû prendre, dit Scherer-Kestner, des engagements que je saurais tenir. Je ne suis pas libre de tout dire avant que certaines conditions soient remplies. » Clémenceau, qui connaissait tout, parce qu'il les lui avait donné, des raisons pour lesquelles Scherer-Kestner ne parlait pas, venait rendre service à son ami, en replaçant finalement le débat sur l'essentiel. Clémenceau a écrit à la fin du second article, enfin du deuxième, parce qu'il y en aura beaucoup, beaucoup à la suite. Pour ma part, je ne demande même pas à Scherer-Kestner la preuve éclatante qu'il nous annonce. Je dis simplement que s'il y a des présomptions notables d'erreur, le procès doit être révisé. Pour comprendre pourquoi Scherer-Kestner ne parlait pas, et il ne le savait pas encore, ne parlerait pas plus tard, pour comprendre pourquoi il devait laisser passer les attaques comme celle de l'Aurore qui lui reprochait soit d'être un criminel, soit d'être un farceur, il nous faut revenir en arrière. On connaît sans doute l'histoire. 16 mois après avoir fait sa découverte de la culpabilité d'Esterhazy et par là de l'innocence de Dreyfus, le lieutenant-colonel Picard, inquiet à juste titre pour sa vie, avait décidé de confier sa découverte à son grand ami, un autre Alsacien, l'avocat Louis Leblois. Il lui avait confié, mais à la seule condition de n'en parler jamais, tant qu'il ne serait pas menacé, et que si un jour il devait être en danger, d'en avertir alors le gouvernement et de préférence le président du Conseil. Picard tenait à demeurer, et tel était son rôle, comme l'écrira Leblois, un officier discipliné, scrupuleux, observateur de la règle militaire et à ce titre ne pouvait et refusait de s'affranchir lui-même, je cite toujours Leblois, des obligations qu'en entrant dans l'armée, il avait volontairement acceptées. Ce disant, il avait été clair. Toute autre espèce d'indiscrétion serait absolument un abus de confiance à mon égard. Et le pire, assurément, serait de permettre d'une manière ou d'une autre de révéler le nom d'Esterhazy, le véritable coupable, au Dreyfus. Leblois, comme il l'expliquera, avait ainsi pris l'engagement absolu de ne rien dire, qui pût même de la façon la plus indirecte mettre la famille sur la trace, la famille Dreyfus, sur la trace du personnage qui nous occupe. Il est donc de toute impossibilité de leur fournir à cet égard, directement ou indirectement, une indication quelconque, si vague qu'elle soit. Mais Leblois n'avait pas tenu sa parole et, dépositaire sans doute d'un trop lourd secret, sentant l'absolue nécessité de faire quelque chose, avait décidé d'agir sans plus attendre. Par l'intermédiaire de Charles Risler, maire du 7e arrondissement, Leblois avait pris contact mi-juillet avec Scherer Kessner, qui, convaincu après leur entretien, avait été engagé par son informateur à passer à l'action. Mais à passer à l'action à une triple condition. La première était de ne jamais révéler le nom d'Esterhazy, la deuxième, de ne jamais rien faire qui pût découvrir Picard, et la troisième, de ne rien entreprendre sans son consentement. La terrible confidence de Leblois exigeait impérieusement de moi, écrira Scherer Kessner, que j'agisse promptement. Et il le fera, disant immédiatement sa conviction à ses amis politiques. Le problème est que parlant urbi et orbi, Scherer Kessner, ne pouvant rien montrer et dire de précis, ne pouvait que se contenter d'affirmer sa conviction. Se trouvant alors dans une impasse, il n'avait eu de cesse de demander à Leblois de le libérer de sa promesse, mais Leblois lui-même, dans une situation inextricable, ne pouvait le lui accorder sans révéler à Picard combien il avait trahi sa confiance. D'août à novembre, ce n'avait été de la part de Leblois que tergiversation, parole donnée puis reprise, qui mettait Scherer Kessner dans une situation rigoureusement impossible. « Donnez-moi Picard !» écrira Scherer Kessner. « Tant que vous ne me l'aurez pas donné, c'est-à-dire tant que vous ne m'aurez pas fourni l'argument nécessaire, je me refuserai à continuer ma campagne, car depuis quelque temps, je fais un métier inadmissible grâce à vos résistances. » Mais comment le faire? Comment dire à Scherer ce qu'il en était? Comment lui dire que Picard lui avait dit clairement sans détour qu'il ne voulait plus être mêlé à cette affaire, qu'il ne voulait plus s'en occuper? Et en toute logique, Picard avait pour cela mis fin à leur correspondance et la seule lettre que Leblois lui enverra par la suite, Picard la jettera au feu sans même l'ouvrir. C'est sans doute pour cela, sans doute parce qu'il savait cela, que deux jours après la publication du J'accuse, Clémenceau écrira dans l'Aurore « Je n'ai jamais vu le colonel Picard. Je ne sais rien de lui sinon qu'il est le plus jeune lieutenant-colonel de l'armée et que le plus bel avenir militaire s'ouvrait devant lui. Dans ces conditions, l'idée de commettre un tel crime ne devait pas se présenter naturellement à son esprit. Je préfère le tenir jusqu'à plus ample informé pour la simple victime de sa conscience révoltée contre les actes de ses supérieurs. Toute sa méprise, autant que je puis en juger, et d'avoir voulu concilier les inconciliables, le cri d'indignation généreuse et la passivité de l'obéissance militaire. Lorsqu'il eut répondu à l'un de ses chefs, qu'il prétendait lui imposer à jamais le silence, « Mon général, je n'emporterai pas ce secret dans la tombe », il devait, pour rester fidèle à sa parole, briser son épée. Il n'en a pas eu le courage. Ou s'il y a songé, des amis imprudents l'en ont dissuadé. Je n'ose le blâmer, mais je constate la faute. Clémenceau, se lançant bravement dans l'affaire, d'abord par amitié pour moi, dira Scherer Kessner, et plus tard par conviction, n'était alors pas pour autant Dreyfusard. Il le deviendra, selon lui, après le procès Zola, et selon Mathieu Dreyfus, qui semble avoir raison ici, que bien plus tard, quelques semaines après la mort du lieutenant-colonel Henri, en septembre ou octobre 1898. Clémenceau était alors ce qu'on appelait un révisionniste, demandant la révision d'un procès illégal, et ce, indépendamment de la question de la culpabilité ou de l'innocence. Quand les deux amis Scheurer et Clémenceau s'étaient vus en octobre et novembre 1897. Clémenceau, comme il le raconte dans sa préface à l'Iniquité, avait engagé vivement Scheurer-Kestner à faire campagne pour la révision du procès. Demande absolument inutile, dans la mesure où Scheurer-Kestner avait pris la ferme résolution d'aller jusqu'au bout, dût-il s'y briser, mais qui entraînait Clémenceau dans le camp de la révision. Il n'y avait, dira Clémenceau dans son discours de 1908, qu'un sacrifice que Scheurer-Kestner ne fut pas en disposition de faire à cette société d'où tant de satisfaction légitime lui était venue, le sacrifice de sa conscience. Et quand ce sacrifice précisément lui fut demandé, plein d'une foi candide, il se lança, souriant, et nous lança nous-mêmes avec lui dans la lutte mortelle contre tout ce qui demeure de sauvagerie humaine sous le mince vernis des apparences civilisées. Par la suite, Scheurer-Kestner, légaliste, pour lequel seule était possible une démarche qui passerait par les voies légales prévues par le Code de procédure criminelle et qui, tout juste, pouvait envisager, comme le lui avait proposé Molinari, de fonder un comité permanent pour la défense de Dreyfus et d'agir sur le long terme, patiemment, par petites touches, pour amener le pays à oublier les passions et privilégier la raison, se montrera pour le moins mécontent de la ligne qui sera celle de l'Aurore. Les articles de Goyer, le J'accuse, d'un Zola qui n'était entré en dreyfusisme que sous son influence, étaient pour lui déplorables. Comme Scheurer-Kestner l'écrira, « Il fallait laisser souffler le pays que nous avons exténué depuis 3 mois. Au lieu de cela, on le pique au vif, en jouant impudemment le tout pour le tout. » Zola s'est mis sur le terrain révolutionnaire dans une affaire qui a besoin de l'opinion. Quelle faute ! Il est évident que Zola se substitue à moi dans la suite. Cela ne serait que m'être agréable, car je ne demande qu'à passer la main. Mais il le fait dans des conditions telles que je ne puis répéter que ce que j'ai écrit. L'ère des bêtises va commencer. Et Scheurer-Kestner avait même songé à se désolidariser d'avec Zola. Dans ses souvenirs, dont est extrait le passage que je viens de citer, Scheurer-Kestner notait aussi « son acte, celui de Zola, très courageux certainement, me semblait celui d'un homme qui entend marcher seul. Il n'avait en effet consulté personne, ni moi, ni même Clémenceau, au journal duquel il avait apporté sa prose. Cette notation est tout à fait étonnante. Scheurer-Kestner partait-il du principe que son ami ne pouvait en être au courant ? Ou Clémenceau s'était-il ainsi dégagé auprès de lui ? Car si en effet le J'accuse est bien l'œuvre d'un homme seul et d'un seul homme, Zola, si en effet ni Scheurer, ni les Dreyfus, ni Reynac n'en avaient été informés, deux personnes au moins étaient au courant du projet, Le Blois et Clémenceau justement. Nous savons que Zola, une semaine avant la publication du J'accuse, qui était déjà écrit, était allé voir Clémenceau pour l'informer de son projet et que ce dernier s'était dit prêt à faire ce que nous désirons de lui, comme l'écrit Le Blois. Nous savons aussi, c'est ce que racontera plus tard Clémenceau, qu'il avait à ce moment désapprouvé la lettre à Félix Faure, estimant que son auteur allait trop loin. Mais bientôt, écrit à la suite Clémenceau, j'ai dû comprendre que c'était lui qui avait raison contre moi. Car en effet, y avait-il d'autres solutions que ce coup de force, puisque l'acquittement du véritable coupable, Esterhazy, mettait le point final à l'affaire Dreyfus ? En agissant révolutionnairement mais en passant par les voies légales, Zola permettait de rouvrir au civil une affaire qui avait été close aux militaires. Et le faire n'était peut-être pas une mauvaise idée car, nous le savons tous, la justice militaire est à la justice, ce que la musique militaire est à la musique. Quoi qu'il en soit de notre étonnement, nous comprenons ici tout ce qui séparait Clémenceau de Scheurer-Kestner. Déjà, apparaissait la distinction formulée plus tard, après Rennes, et qui sera à l'origine de l'éclatement du camp Dreyfusard, entre modéré et intransigeant, ou selon les auteurs, modéré et violent, politique et révolutionnaire, modéré et radicaux, opportuniste et radicaux, retrouvant d'ailleurs ainsi ce qui avait déjà séparé les deux amis à l'époque de Ferry. Quand Georg Kästner avait voulu sauver un innocent injustement condamné, Clemenceau voyait au-delà, explication de quelques phrases terribles qu'il pourra prononcer ou écrire par la suite à propos de l'homme Dreyfus. À l'été 1898, au paroxysme de l'affaire, après avoir lié amitié avec Picard, Clemenceau avait écrit « Dreyfus eut contre lui une fatalité terrible, comme Oedipe, au chemin marqué par le destin. Pour s'être trouvé au point de rencontre de toutes ces choses, Dreyfus est au bagne, et les siens luttent éperdument pour sauver moins sa vie que son nom du déshonneur. » Cela est émouvant, mais combien l'histoire nous fournit-elle de semblables victimes ? Nous luttons pour Dreyfus, sans doute, parce que tout homme qui souffre injustement fait appel aux meilleurs sentiments de l'âme humaine. Nous luttons surtout pour la France, qui serait à jamais déshonorée si elle acceptait définitivement la complicité du crime public, dont le scandale stupéfie, à cette heure, tous les peuples civilisés de la Terre. Picard, lui, n'est pas la victime involontaire. C'est l'homme qui, pour réparer le mal, s'offre en sacrifice de propos délibérés. C'est pourquoi je dis que celui-là est la vraie victime, ne souffrant que parce qu'il a délibérément sacrifié son avenir, sa liberté, sa vie, pour réparer l'erreur des uns, le crime des autres. Donc une vraie victime, dont Clemenceau fera bientôt le héros de l'affaire, un héros qu'il fut indiscutablement, et plus tard encore son ministre. Et c'est là qu'était toute sa conception et celle de son combat qui, comme le dira Anatole France, lui avait fait porter à Clemenceau, dans l'action, une générosité, une intrépidité, une force d'âme à peu près unique. Clemenceau était certes devenu Dreyfusard, mais quand Georg Kästner pouvait le revendiquer, lui refusait de se définir comme tel. Si nous abandonnons la cause de la justice parce que Dreyfus est libre, nous mériterions le sobriquet de Dreyfusard. Car alors, nous n'aurions combattu que dans l'intérêt d'un homme, non pour l'avantage de tous, ainsi que nous avons cessé de le crier bien haut. Clemenceau, dans l'affaire, comme sur d'autres terrains, n'avait jamais combattu que pour la République, que pour la France, pour l'idée qu'il se faisait de la mission de l'une et de la mission de l'autre. Je l'ai dit dès le premier jour, au-dessus de l'affaire Dreyfus, il y a la France, dans l'intérêt que nous avons d'abord poursuivi. Au-dessus de Dreyfus, je l'ai dit dès le premier jour, il y a la France, dans l'intérêt de qui nous avons d'abord poursuivi la réparation du crime judiciaire. La France à qui les condamnations de 1894 et de 1899 ont fait plus de mal qu'à Dreyfus lui-même. La France qui ne peut vivre d'injustice et de crime. Je vous remercie.
Merci pour ce passionnant exposé qui nous montre une fois de plus comment les débats, les convictions, la force des incertitudes s'entremêlent avec la complexité des rapports affectifs et individuels. Je crois que nous le découvrirons, nous le vérifierons tout au long de nos travaux. Merci beaucoup. Et merci d'avoir si bien respecté le temps imparti par Sylvie Brodziak, qui elle-même, enfin n'y revenons pas. Je me réjouis de donner maintenant la parole à notre chère Jacqueline Lallouette. Donc vous savez que professeure émérite à l'Université de Lille et membre honoraire de l'Institut universitaire de France, elle a mené ses travaux dans des champs divers, mais qui étaient tous propres à passionner les historiens de la Troisième République en particulier. Dans l'ordre de la libre pensée, réflexion sur l'anticléricalisme, sur la laïcité, sur les rapports entre l'État et les cultes, sur les symboles de la nation, ces travaux les plus récents peut-être, la République, les fêtes légales, la statuaire politique, un livre sur la statue et la vie politique que j'ai trouvé en particulier passionnant. Et vous avez tout récemment, il est sur ma table, et déjà regardé de près, un livre sur l'identité républicaine de la France, paru chez Fayard en 2023, chez l'ancien Fayard, vous travaillez actuellement sur les symboles de la République, la devise, le drapeau, la Marseillaise. C'est assez dire pourquoi nous sommes heureux de vous entendre parler de cette amitié, plus célèbre peut-être que d'autres, mais qui mérite d'être approfondie, celle qui a rapproché. Certains l'ont trouvé paradoxal, mais ce n'est pas le cas, me semble-t-il. Vous allez nous le dire, en tout cas, Georges Clemenceau et Louise Michel. Je suis heureux de vous donner la parole, chère Jacqueline.
Merci, Monsieur le Président.
Pardon. Avec un micro.
Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc l'amitié entre Clemenceau et Louise Michel est une sorte de leitmotiv des biographies de Clemenceau et surtout de celle de Louise Michel, à l'exception notable de celle d'Irma Boyer, qui ne cite même pas Clémenceau. Les récits relatifs à cette amitié reposent toujours sur les mêmes moments et les mêmes faits, essentiellement les relations pendant le siège de Paris et pendant la Commune, la correspondance entretenue entre les deux, les soins apportés par Clémenceau à Marianne Michel, mère de Louise, quand Louise était détenue à la centrale de Clermont dans l'Oise, et d'autres points encore. Mais la relation entre ces deux monstres sacrés exige une approche plus fouillée que ce leitmotiv, une approche plus serrée. Dans un premier temps, après avoir présenté quelques sources, je vais montrer comment s'est déroulée cette amitié sous un angle chronologique et factuel. Parce que souvent, dans les récits sur cette amitié, il y a beaucoup de flou qui s'est instauré. Puis, je mettrai en lumière tous les éléments idéologiques et psychologiques susceptibles de créer une communauté de pensée et d'affection entre ces deux personnes, pouvant paraître totalement dissemblables. Enfin, et à l'inverse, j'insisterai sur tout ce qui pouvait les séparer et même en faire des adversaires politiques peut-être irréconciliables. Pour des questions de temps, ces deux dernières parties seront présentées de manière rapide. Je les développerai dans les actes. J'ai préféré ici construire un cadre rigoureux et quitter ce mode justement flou, parfois un peu douceâtre et sirupeux, souvent adopté pour présenter cette amitié paradoxale entre Louise Michel et Clémenceau. Alors, dans un premier temps, les sources et les faits. La connaissance des relations entre Louise Michel et Clémenceau se fonde sur des sources variées, les écrits mutuels de l'un sur l'autre, connus directement ou indirectement. Directement, par exemple, du côté de Clémenceau, par le grand article paru dans La Justice le 12 novembre 1893, je serai amené à en citer quelques extraits, ce que Louise Michel écrivit dans ses mémoires, il y a trois tomes sur les mémoires, 1886, 1898 et 1904, ou encore dans La Commune, et enfin dans des lettres à des tiers où elle parle de Clémenceau. Des propos connus aussi indirectement, par exemple comme ceux qui ont été rapportés par Jean Martel dans Clémenceau peint par lui-même. La correspondance est une source essentielle. L'ennui est qu'elle est numériquement déséquilibrée, puisque l'on connaît une seule lettre, peut-être de Clémenceau à Louise Michel, alors qu'il y en a 21 de Louise Michel à conserver, à Clémenceau, qui ont été conservées et rassemblées par Xavière Gautier, qui a elle-même écrit une biographie de Louise Michel. On peut trouver aussi des enseignements dans des écrits d'auteurs contemporains, par exemple dans les souvenirs d'un préfet de police de Louis Andrieux, publié en 1885, ou encore dans Les survivants de la Commune de Charles Chinchol, en 1885 également, et bien sûr dans toutes les histoires de la Commune, notamment celle de Lissagaray. La presse est une source importante, pour autant qu'elle soit toujours fiable, mais en fait ce n'est pas le cas. Et puis enfin, il y a toutes les biographies de Clémenceau, mais surtout celle de Louise Michel. J'en note quelques-unes plus particulièrement. Celle d'Edith Thomas qui s'impose, qui a utilisé les archives nationales, les archives de la préfecture de police. D'autres, je me suis trompée là, dans une autre source. Anna Léo Zévaès et enfin Françoise Mosser, qui a été adoubée par Lucien Descaves, qui avait été lié à Clémenceau et qui a préfacé ce livre. Les faits. Il est établi d'une manière certaine. Ah, ouais. Pardon. ça me fait loucher. Il a établi d'une manière certaine, notamment grâce à son article de la justice que je viens de citer, que Clémenceau a connu Louise Michel à partir de 1870. J'ai fait la connaissance de Louise Michel pendant le siège. Elle tenait une école à Montmartre. Comme les enfants ne devaient pas vagabonder dans les rues et qu'il n'y avait pas de place pour eux dans les écoles communales de l'Empire, j'en encombrais les écoles libres. Il s'agit bien sûr d'écoles libres laïques qui s'étaient développées depuis 1868-1869. Celle de Louise Michel en eut sa bonne part. Vers la fin de la Commune, je la revis au fort d'Issy qu'elle commandait, habillée en garde nationale, avec un grand diable de fusil sur l'épaule. La fusillade faisait rage. Dans ce prodigieux vacarme, Louise Michel, entourée de la troupe la plus bigarrée, donnait tranquillement des ordres qui auraient été probablement ridicules ailleurs, mais dont on n'avait vraiment pas envie de rire dans cet endroit-là. Elle aussi, la grande pitié pour les faibles l'avait fait verser dans la bataille contre les forts. Pour empêcher qu'on tuât, elle tuait. C'est là que triomphe Tolstoï. Jamais je ne la vis plus calme. Comment elle ne fut pas tuée 100 fois sous nos yeux, c'est ce que je ne puis comprendre. Clémenceau est revenu sur ses liens avec Louise Michel pendant cette période, dans les entretiens qu'il a eus avec Jean Martet. J'en donne ici une partie. J'avais connu Louise Michel quand j'étais maire de Montmartre et que j'avais voulu faire la séparation des églises et de l'État. J'avais envoyé une belle lettre à tous les instituteurs et à toutes les institutrices pour leur dire « Je ne vous demande pas grand-chose. Je vous demande de ne pas faire faire le catéchisme à vos élèves, de ne pas les conduire au curé. » Parmi les institutrices, il y en a eu une seule qui m'a répondu, c'est Louise Michel. Louise Michel est moins prolixe sur le siège de Paris et la Commune, par exemple, dans son livre sur la Commune, publié en 1898, lorsqu'elle parle du fort d'Issy, elle ne mentionne pas la visite de Clémenceau. Mais on sait, grâce à la correspondance éditée, qu'au nom du club de vigilance du 18e arrondissement de Paris, un club de femmes, elle s'adressa au citoyen maire, entre guillemets, de Montmartre, pour réclamer un certain nombre de mesures, des visites domiciliaires, la réquisition des logements abandonnés, la réquisition du vin et du charbon, etc. Clémenceau a effectivement réquisitionné vin et charbon avant ou après cette lettre, je ne sais pas. Ça lui a d'ailleurs valu quelques ennuis avec la justice ultérieurement parce qu'il a été poursuivi par une personne réquisitionnée. Immédiatement, j'avance chronologiquement, hein, pas à pas. Immédiatement après la chute de la Commune, Louise Michel n'avait pas une idée très haute de l'ancien citoyen maire, puisqu'à propos de la déposition de M. Clémenceau dans l'enquête sur le 18 mars, là j'ai quelque chose qui n'est pas très au point pour moi, elle écrivit à nos frères d'exil le 18 décembre 1871. Je n'appartiens pas en effet au même monde que M. Clémenceau. Mes amis sont morts, les siens sont vivants. Je regrette que M. Clémenceau considère comme des insensés ceux qui répandent des larmes sur les misères du peuple. Arrive ensuite une longue solution de continuité. Il faut en effet attendre la lettre de Louise Michel du 20 mars 1879 pour pouvoir reconstituer la relation. Celle-ci avait été maintenue avant cette date, puisque dans cette lettre du 20 mars, Louise Michel remercie Clémenceau de sa lettre, de l'envoi de 20 francs, de modèles de dessins qui lui seraient utiles pour les cours qu'elle donne à des jeunes gens. Elle le remercie également, entre guillemets, de sa bonne amitié. Durant cette même année 1879, suivent 9 autres lettres, la dernière datant du 28 octobre. Lequel des deux protagonistes avait entamé cette correspondance et à quelle date, je n'en sais rien. Dans ces lettres, il est beaucoup question de l'amnistie, du refus de Louise Michel d'une amnistie partielle, a fortiori d'un refus des grâces. Louise Michel y sollicite beaucoup Clémenceau, jamais pour elle, pour elle, toujours pour d'autres. Les enfants de déportés, dont il faut surveiller la scolarisation, les vieillards déportés rapatriés en métropole, dont l'avenir l'inquiète, etc., etc. Elle se lance parfois dans des considérations politiques, Ainsi, le 15 octobre, elle écrit « Cette République qui porte un masque d'honnêteté sur son visage de prostituée me fait horreur. Je regarde la France comme une nation pourrie, aussi incapable d'avoir une vraie République que la Rome des Césars. Ne pouvez-vous pas parler de si haut à ce gouvernement qu'il sente son abjection ? Je préférerais vous voir tous où nous sommes que parmi ces idiots, ces lâches, qui n'ont jamais pris une mesure large ni un parti franc. Au revoir. Je voudrais vous voir prendre la tête d'une révolution et non d'une opposition qui suppose la conservation. » Puis, dans la correspondance, arrive un autre blanc qui dure jusqu'au 2 août 1882. On sait que durant cet intervalle, Clémenceau se trouva à la gare Saint-Lazare pour accueillir Louise Michel le 9 novembre 1880. Louise Michel qui revenait de Nouvelle-Calédonie via Londres et Dieppe. D'après Louis Andrieux, à cette date, les liens entre Clémenceau et Louise Michel étaient mal vus par l'extrême gauche. Les socialistes regardent en effet le député de Montmartre comme un bourgeois et les condamnés de la Commune le tiennent pour un modéré. Jusqu'à présent, on n'a pas osé heurter de front les sentiments de Louise Michel, mais on s'occupe de gagner ceux qui l'entourent et de leur inspirer les sentiments de haine et d'envie qu'on éprouve contre M. Clémenceau. Peu de temps après, survint un épisode lié à la mort et aux funérailles d'Auguste Blanqui, inhumé au Père Lachaise, le 5 janvier 1881. Clémenceau vit Blanqui, dont il avait été proche durant sa jeunesse, quelques jours avant sa mort, et tout en sachant que sa fin était imminente, parti pour hier dans le Var, où il était attendu pour un comité électoral, puisque l'on était en pleines élections municipales. Il ne parut donc pas au Père Lachaise, mais il y avait une couronne au nom de la justice, le journal. Son absence, qui entraîna une vive polémique entre lui et Émile Digeon, qui écrivait dans le journal Le Citoyen. Émile Digeon était un ancien proscrit de l'Empire, un ancien dirigeant de la commune de Narbonne. Donc cette absence aurait été la cause d'une brouille, peut-être d'une rupture momentanée entre Clémenceau et Louise Michel. En effet, 3 jours après l'enterrement de Blanqui, un convoi de plus de 300 amnistiés débarqués à Brest arriva à la gare Montparnasse et d'après plusieurs journaux, un échange très vif se serait produit entre Clémenceau et Louise Michel. Louise Michel aurait demandé à Clémenceau des explications sur son absence du 5 janvier. Le ton aurait monté et Clémenceau aurait fini par lui dire à voix suffisamment haute pour être entendue de tous qu'il ne pouvait approuver ni sa politique, ni ses procédés. 19e siècle, 10 janvier. Je ne veux pas être solidaire de votre politique que je trouve détestable et de vos agissements que je réprouve. Le siècle, 10 janvier. Je serai franc, je n'approuve nullement vos idées et je ne pouvais m'associer à votre manifestation. La manifestation pour les funérailles de Blanqui où Lise Michel a pris la parole. L'univers, 10 janvier. Clémenceau démentit le fait dans la justice du 11 janvier. Ce récit est absolument faux, sauf en ce point que Louise Michel m'a dit qu'elle regrettait que je n'ai pas assisté aux funérailles de Blanqui et que j'ai répondu que je le regrettais autant qu'elle-même. Henri Fouquier, du 19e siècle, ironisa largement. Quoi qu'il en ait été, il faut attendre le 2 août 1882 pour retrouver la trace d'une relation avec une lettre de Louise Michel qui montre une indéniable proximité personnelle avec Clémenceau. Sinon, malgré tout l'aplomb dont elle pouvait faire preuve, se serait-elle aventurée à lui écrire « Cher citoyen Clémenceau, j'espère bien que vous n'entrerez pas dans ces ministères-là, que ceux qui ont versé cette soupe de fange la boivent, ce sont les opportunistes qui ont versé une soupe de fange, que pourriez-vous faire dans ce cloaque ? Rien. Il est impossible de tirer de la situation où ces gens-là ont mis la France autre chose que de la honte. Il n'y a qu'une révolution qui peut tout sauver. Non, n'entrez pas dans ce ministère qui prendra le triste héritage d'autant de turpitude cachée que de turpitude découverte. Je vous sors la main. » On note qu'elle lui donne
du cher citoyen Clémenceau, et non du simple citoyen Clémenceau, comme elle le faisait quand elle était contrariée ou fâchée. En revanche, elle le quitte en lui serrant simplement la main, et non en lui serrant la main de tout cœur, comme elle le faisait habituellement. Un autre grand blanc se produit dans la correspondance sur toute la deuxième moitié de 1882, 1883, 1884. Il faut attendre la manifestation des travailleurs, enfin des chômeurs plutôt, sur l'esplanade des Invalides du 9 mars 1883, que la justice critique, et le procès de Louise Michel et d'autres qui suivit devant la cour d'assises de Paris, pour retrouver une trace tangible des relations entre Clémenceau et Louise Michel via la justice. Donc en mars, puis en juin, Louise Michel est condamnée à une peine de réclusion de 6 ans qu'elle va accomplir tout d'abord à la centrale de Clermont, puis ensuite à Saint-Lazare. Alors, pendant toute cette période où Louise Michel était emprisonnée, Clémenceau s'occupa de sa mère. Non seulement il la visita en tant que médecin, mais en outre, lorsque Marianne Michel tomba gravement malade vers la fin de l'année 1884, Clémenceau multiplia les démarches pour que Louise Michel fût extraite de la centrale de Clermont, ramenée à Paris, pour que la mère et la fille puissent se voir avant le décès de Marianne. Clémenceau écrivit donc et à Jules Crévy et à Waldeck-Rousseau. Non seulement le transfert se fit, mais en outre, Louise Michel fut autorisée à rester plusieurs jours au domicile maternel, en présence souvent de Clémenceau, de Rochefort et de deux policiers par ailleurs. J'avance un petit peu. Bon, il y a des anecdotes à écrire sur ce séjour. Alors, après la mort de Marianne Michel, figurent cinq lettres de Louise Michel envoyées à Clémenceau entre le 1er février et le 5 mai 1885. Le bruit d'une grâce de Louise Michel avait couru, ce qui mettait Louise Michel dans une rage absolue. Le 1er février, elle reprocha à Clémenceau d'avoir cru qu'elle l'accepterait, tout en le remerciant des 100 francs qu'il lui avait envoyés. En mai, le bruit de la grâce courant toujours, Louise Michel somme Clémenceau sur son honneur de faire connaître sa position explicitement à Jules Grévy. L'année suivante, le 22 janvier, le corps de la mère de Louise Michel est transféré dans une nouvelle sépulture, dans le même cimetière à Levallois-Perret, mais dans une nouvelle sépulture. Et Louise Michel demande à Clémenceau d'insérer dans la justice un communiqué annonçant cette opération. C'est également en 1886, dans ses mémoires publiées chez Stock, qu'elle écrivit. Les indécisions qu'on lui reproche à Clémenceau viennent de son illusion d'attendre encore quelques progrès du parlementarisme mort. Cette illusion est le microbe qu'il a rapporté de l'Assemblée de Bordeaux, tout en fuyant cette Assemblée. Sa place est dans la rue et les circonstances l'y traîneront au jour d'indignation. C'est ce qui lui reste du tempérament révolutionnaire. La froide indignation de la révolte, un jour de grand crime, c'est ce qui le fera sortir de là-dedans comme il est sorti de l'Assemblée de Bordeaux. Pensait-elle vraiment en 1886 que Clémenceau pouvait passer au camp de la Révolution, ou bien écrivit-elle ces lignes sous le coup de souvenirs qui lui revenaient d'années antérieures ? L'année 1887 est marquée par une seule lettre adressée le 12 juin au cher citoyen Clémenceau pour lui demander un service relatif à un de ses petits cousins. Elle le remercie de tout cœur et lui serre la main. En 1888, Louise Michel est blessée par un chouan fanatisé ou fanatique, Pierre Lucas, qui manque Louise Michel exactement comme Trump a été manqué récemment, juste une oreille qui est atteinte. Clémenceau vint visiter Louise Michel, puis c'est de nouveau un blanc jusqu'en 1898, donc pendant 10 ans, date d'édition de la Commune, que Louise Michel envoya à Clémenceau avec cette dédicace qui m'a été communiquée par Sylvie Brodziac. Vous souvenez-vous du fort d'ici ? et avant de tout le passé de Montmartre. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit ? Vous serez anarchiste. Comment interpréter ces quelques lignes ? Comme une marque d'affection teintée de nostalgie ? Comme une marque de moquerie envers elle-même ? Et j'étais assez cotte, assez sotte de croire que vous pourriez évoluer vers l'anarchie. Quel qu'en soit le sens, le simple fait que Louise Michel ait ressenti le besoin d'envoyer et de dédicacer ce livre traduit certainement un attachement. La dernière lettre adressée à Clémenceau par Louise Michel est expédiée de Londres le 1er août 1903 et il s'agit encore... Louise Michel, qui avait menacé d'être internée dans un service psychiatrique, dans un service aliéné en 1890, j'ai pas le temps d'expliquer ça, vivait à Londres depuis 1890. Elle est souvent revenue en France. C'est d'ailleurs lors de ses retours que Clémenceau a écrit l'article de la justice en 1993. Se sont-ils revus quand elle est venue en France ? C'est impossible de le dire. En 1903, elle lui écrit encore pour une sollicitation pour autrui. Puis arrive, par ailleurs, elle était toujours en tournée de conférences en Belgique, aux Pays-Bas, en Algérie, bon, un peu partout. Elle se trouve à Marseille quand elle est atteinte par une congestion pulmonaire et elle meurt à Marseille le 9 janvier 1905. Clémenceau est prévenu par les deux grands amis anarchistes de Louise Michel de l'époque, sa compagne qui vivait avec elle à Londres, Charlotte Vauvel, et puis l'anarchiste Ernest Giraud. Quelle conclusion tirer de tout cela ? Premier point, la relation entre Louise Michel et Clémenceau n'a manifestement jamais cessé, comme le prouve la lettre de 1903. Mais outre les lettres, en quoi consistait-elle ? Clémenceau vit-il Louise Michel après sa visite de 1888 ? Deuxième point, la relation donne l'impression d'avoir été très déséquilibrée. Pour le dire sans doute un peu schématiquement, Louise Michel sollicitait toujours Clémenceau, bien que ce ne soit jamais pour elle, et en certaines occasions, elle ne lui ménagea pas ses admonestations politiques. Clémenceau, de son côté, donna tout. Le combat pour l'amnistie complète mené entre 1876 et 1880, les démarches de 1884, de l'argent, des livres, les soins à la mère. En échange, que reçut-il à part des admonestations ? Pas grand-chose, si ce n'est peut-être des objets canaques que Louise Michel pensait pouvoir lui faire parvenir en 1879. Que pensaient-ils l'un de l'autre ? Louise Michel, même une fois revenue des espoirs politiques qu'elle avait placés en Clémenceau, continua de lui faire confiance. Quand elle le sollicite en 1903 pour quelqu'un, elle lui écrit tout naturellement « J'ai donc compté sur vous ». De son côté, Clémenceau fut fasciné par Louise Michel, comme il l'avait été par Blanqui, et pour les mêmes raisons. L'idéal, l'audace, le désintéressement et en outre, pour Louise, l'immense bonté. L'article du 12 novembre 1893 se termine ainsi. C'est une chrétienne du premier jour, de celle qui avait le Christ non pas sur les lèvres comme aujourd'hui, mais dans le cœur, de celle qui descendait en souriant dans l'arène et perdue dans l'extase, attendait les bêtes en chantant. On a parfois comparé Louise Michel à Jeanne d'Arc. Clémenceau, il pense plutôt à Sainte Blandine ici. C'est la folie de la croix. Et sans espoir de récompense, saluons. Mais par ailleurs, dans Clémenceau peint par lui-même, Jean Martet rapporte que Clémenceau lui avait dit « Depuis la commune, elle a naturellement fait des bêtises. Je me suis séparé d'elle. » Ce qui prouve bien qu'avec les femmes... Quant à Lucien Descaves, dans sa préface au livre de Françoise Moser, il rapporte que lors d'une visite qu'il rendit à son ami Georges Clémenceau, la visite lui donna l'occasion de lui parler de Louise Michel, et il en reçut une opinion laconique, belle tête, mais pas de cervelle. Enfin, mais de cervelle, point. Alors, très rapidement, parce que je crois que je suis au bout. Alors, les nombreux traits communs, c'est les admirations communes, Victor Hugo et Blanqui, le partage de causes communes, le refus de la colonisation, l'horreur envers la peine de mort, l'attention aux faibles et aux démunis. On pensera au dispensaire de Clémenceau, il y a une plaque, 23 rue des Trois Frères. L'amour envers les animaux. L'intérêt pour la nature, les interrogations sur la vie, parfois aux confins de la métaphysique. La question de l'antisémitisme et de l'affaire Dreyfus, qui est une affaire complexe. Louise Michel a écrit contre l'antisémitisme, mais ne s'est pas mouillée dans l'affaire Dreyfus, ne serait-ce qu'à cause de ses relations avec Rochefort. Des détestations communes, Thiers et Jules Ferry. Troisième point, Clémenceau et Louise Michel ont été séparés par leur conception de la vie et de l'action politique. Pour l'un, c'était la légalité, toujours la légalité et le refus de la violence. Clémenceau ne s'est jamais remis de l'assassinat des généraux Lecomte et Thomas. Refus de la révolution, obligation de passer par des réformes, réformes politiques préfigurant des réformes sociales. Pour Louise Michel, les réformes étaient des miettes de pain qu'on jetait à la face du peuple et tout devait passer par l'action violente. Je n'ai pas le temps de vous lire des extraits.
Hélas, non.
Alors, ces refus, ces positions sur la violence et la légalité se sont particulièrement illustrées au moment de la défenestration de l'ingénieur Vatrin à De Casseville en 1886 et de l'assassinat de Sadi Carnot en juin 1894. Conclusion. Il s'agit donc d'une amitié imparfaitement connue, pleine de silence et d'incertitude entre deux personnes que certains éléments pouvaient rapprocher alors que d'autres ne pouvaient que les éloigner, voire en faire des adversaires. Paradoxale, elle fut le produit d'une alchimie quelque peu mystérieuse, à propos de laquelle une évidence simple s'imposait. S'il y a un gentil protagoniste dans cette histoire, ce ne fut pas la sœur de charité laïque qu'était Louise Michel, comme disait Jean Jaurès, mais ce fut l'homme à la dent dure et à la langue acérée, Clémenceau. C'était inattendu.
Voilà en effet une nouvelle communication en vérité passionnante qui nous rappelle la vieille formule des historiens, c'est plus compliqué que vous ne croyez. Et de fait, vous nous avez magnifiquement montré ce qu'est la dissymétrie de cette amitié et à quel point elle a été soumise à des légendes un peu qui simplifie les choses. Vous apportez de la nuance, donc du vrai.
Ah, mais c'est une belle formule.
Je vous la donne. Vous pourrez la mettre dans vos mémoires. Ainsi survivrai-je un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacqueline. J'en viens maintenant à cet ironiste de Ranke, les relations entre Arthur Ranke et Georges Clémenceau, qui est pour moi l'occasion vraiment bienvenue de donner ma parole. La parole à un très cher ami qui est Jean-François Chanet, camarade de l'École normale, professeur des universités à l'Institut d'études politiques de Paris, par là mon collègue, qui a été, qui a rejoint, même si ce n'était pas son origine, qui est plus auvergnate, je crois, qui a rejoint la Franche-Comté, magnifique région française, qu'il a ensuite, par son influence, élargi d'ailleurs à la Bourgogne, puisqu'il a été recteur à Besançon, puis ensuite recteur de la région académique Bourgogne-Franche-Comté lorsque ces deux régions ont été fusionnées. C'est à Besançon que j'ai eu l'occasion de recueillir un grand nombre de témoignages de sa popularité ferme auprès du monde de l'enseignement et d'un rôle qui n'est pas et ne sera pas oublié. Vous présidez, cher Jean-François, d'autre part le comité d'histoire du ministère de l'Éducation nationale. Et vous avez publié, vous êtes un des biographes qui nous sont chers de Georges Clémenceau, puisque vous êtes inscrite dans une belle lignée en écrivant un Clémenceau que vous avez intitulé, c'est toujours le problème évidemment des sous-titres, mais cela n'est pas mal, dans le chaudron des passions républicaines. Et vous avez préfacé également le recueil des nouvelles de Clémenceau qui s'appelait « Aux embuscades de la vie » tout récemment. Bref, vous avez tous les titres nécessaires pour nous passionné en nous parlant des relations entre Arthur Ranke et Georges Clémenceau, une amitié parisienne. Donc vous êtes un provincial d'origine et néanmoins vous nous transportez dans la capitale. Bienvenue, à vous de parler.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, cet ironiste de Ranke, j'ai proposé ce titre en l'empruntant à un article où Georges Clémenceau, dans la Dépêche du 13 juillet 1900, écrit « Monsieur Deschanel s'est diminué », écrit cet ironiste de Ranke, « et chacun de se demander comment un tel accident est possible. » Quant au terme du sous-titre, il suggère trois caractères de l'amitié entre Arthur Ranc et Georges Clemenceau. Nés en province, eux aussi. Ils se sont connus et fréquentés à Paris entre les premiers temps du séjour du second à la faculté de médecine et la mort du premier, soit près de 50 années. Et leur amitié, qui ne signifie pas l'accord politique perpétuel, au contraire, est-on tenté de dire, témoigne d'un esprit où la conviction militante n'a d'égal que la verve sarcastique. 10 années les séparent, à peu près les 10 années dont Louis Blanc s'est fait le chroniqueur politique à charge, les 10 premières années de la monarchie de Juillet. Ranc, né le 20 décembre 1831, a 20 ans lorsqu'il fait le coup de feu contre le coup d'État de Louis-Napoléon. Clemenceau, lui, né, comme vous le savez, le 28 septembre 1841, est un enfant déjà assez conscient pour avoir partagé l'inquiétude des siens. Après l'arrestation de son père comme suspect dans la même circonstance. Il vient d'avoir 20 ans lorsqu'il arrive à la gare Montparnasse, accompagné de son père, qui l'installe dans une chambre d'étudiant rue de l'Estrapade, au plus près de l'école de médecine, note Sylvie Brodziak, qui souligne aussi l'influence déterminante de Benjamin Clemenceau sur la sociabilité politique de son fils à Paris. Elle nous l'a rappelé d'ailleurs tout à l'heure, la première visite au grand homme est pour Étienne Arago, et c'est chez lui que le jeune Clemenceau fait la connaissance d'Arthur Ranc. Alors, après avoir résumé ce qui distinguait déjà cet opposant républicain, je reviendrai sur les étapes d'une amitié scandée par de grandes et moins grandes batailles politiques et aussi par quelques duels. L'aïeul le plus notable de Ranc est son grand-oncle Maurice, prêtre constitutionnel, recteur de Poitiers, où Arthur est né en 1831. Son grand-père, Jean, était artisan tanneur à Villefort, dans les Cévennes. Son père, Joseph, a fait des études de droit et est devenu avoué près de la cour royale de Poitiers. La médecine d'un côté, le droit de l'autre, mais en somme une bourgeoisie assez homogène qui a les moyens de faire poursuivre à ses fils leurs études à Paris. Entré à 7 ans au Collège royal de Poitiers, toujours tête de classe jusqu'au baccalauréat ès-lettres, Arthur arrive à Paris en 1849 pour y faire son droit. Il ne tarde pas à s'y distinguer dans ce que la jeunesse des écoles compte alors de plus avancé. À la différence de Francisque Sarcey, par exemple, qui déplore dans une lettre à son père de mars 1851 la suspension de cours de Michelet au Collège de France. Un homme qui dit ce que tout le monde pense, cela est dangereux, écrit-il. Mais il conclut à propos de la manifestation de soutien qui s'annonce dans le quartier latin, nous nous garderons bien d'y mettre les pieds. Arthur Ranc, lui, plutôt deux fois qu'une, comme il sera aussi de la résistance au coup d'État. Et deux traits de sa personnalité prennent alors du relief. L'acceptation, sinon l'attrait, de la prison. Il se lie en 1852 avec Auguste Blanqui, au point de se faire le truchement de ses contacts avec l'extérieur. Et la constance dans les engagements primordiaux. Il présidera en 1880 la Société des victimes du 2 décembre. Pour avoir participé en 1853 au complot dit de l'hippodrome et de l'opéra comique, toute une époque, avec des étudiants qui s'étaient connus au cours de Michelet précisément, quoique acquitté, il se retrouve à Sainte-Pélagie. Et en tant que membre d'une société secrète, est condamné à 1 an de prison, 100 francs d'amende et 5 ans de privation de ses droits civiques. Et pour s'être lié à Edmond Bellemare, un ouvrier qui est devenu clerc d'avoué et qui, le 8 septembre 1855, a déchargé son fusil sur l'escorte de Napoléon III qui se rendait au théâtre italien, pour sa relation avec cet homme, Ranc, en vertu d'un décret du 8 décembre 1851, est condamné à la déportation à Lambessa. Mais il s'échappe et, de Tunis à Montreux en passant par Gênes, devient un exilé, au sort d'ailleurs convenable, puisqu'il se voit confier à Montreux la direction des études d'un collège français. Il rentre en France, comme bien d'autres exilés, à la faveur de l'amnistie de 1859. On voit donc quels traits ont pu attirer à lui l'étudiant qui lui est présenté chez Étienne Arago. moins sa naissance poitevine, sans doute, que ses titres de militant condamné pour ses idées et ses fidélités, comme Clémenceau ne tarde pas à l'être aussi condamné fin février 1862 pour avoir collé à la Bastille des affiches à l'occasion du 14e anniversaire de la Révolution de 48. Notons au passage l'importance pour la suite des relations qu'au sortir de la prison de Mazas, il a noué lui-même avec Blanqui et Auguste Scherer-Kestner. Pouvait également lui faire impression chez Ranke son talent de journaliste, que ne tarde pas à s'attacher aussi bien Charles de Lécluse que Jules Vallès. Dans Le Bachelier, celui-ci le campe sous le nom de Rock, R-O-C-K, nom transparent pour qui veut bien se rappeler que Ranke en occitan signifie rocher. Il y a un dialogue dans le roman qui mériterait d'être cité, mais le temps nous manque. Je le reproduirai dans la version écrite. Dans les dernières années de l'Empire, Ranke enchaîne les condamnations et aussi les changements de résidence pour échapper aux arrestations. Mais l'heure approche où les deux hommes vont changer les risques de l'opposition pour ceux de l'exercice du pouvoir. Pouvoir municipal dans Paris assiégé, pouvoir national en ce qui concerne Ranke à Tours dans la délégation du gouvernement de la Défense nationale. Après le 4 septembre, je n'y reviens pas, Sylvie Brosiac l'a évoqué tout à l'heure, tandis que Clémenceau devient maire du 18e arrondissement, Arthur Ranke, lui, est maire du 9e. Et voyons ce qui le rend particulièrement représentatif de ce moment tragique de notre histoire en tant que trait d'union entre Gambetta et de Lécluse. Le jeune avocat Gambetta étant entré dans la lumière des premiers rôles en 1868 à l'occasion du procès Baudin, où il défendait de Lécluse, inculpé en tant que propriétaire du Réveil, le journal où il avait lancé la souscription pour ériger un monument à la mémoire du député de l'Ain tué sur une barricade le 3 décembre 1851. Que Ranke se retrouve à maire du 9e arrondissement, rien de surprenant donc, compte tenu de ses liens avec Gambetta. Aussi bien, il quitte Paris dès le 14 octobre par le même moyen aérien que Gambetta lui-même une semaine auparavant et pour le rejoindre à Tours, où il va diriger la Sûreté Générale tout de même. Élu député à l'Assemblée nationale le 8 février 1971, Ranke démissionne dès le 2 mars pour protester contre le vote la veille du traité de paix que Thiers a présenté à la tribune le 28 février. Beaucoup se souviennent sans doute de la formule de Hugo commentant dans Chose vue, il est hideux. Hugo qui lui-même va démissionner le 8 mars en solidarité avec Garibaldi. Ranke regagne Paris le 20 mars, est élu le 26 représentant du 9e arrondissement à la Commune, et siège à partir du 29 aux commissions de la justice et des relations extérieures. Mais à nouveau, il démissionne en raison de son opposition au décret des otages, le 5 avril. Relevons comme un signe révélateur et de l'incertitude de ces temps troublés et des effets de ce qui n'était encore qu'un apprentissage du suffrage universel que Ranke, qui, avec Clémenceau, a participé à la création de la Ligue républicaine des droits de Paris, ce même 5 avril 1871, n'est pas inquiété entre la semaine sanglante et les élections municipales du 21 juillet. Ce jour-là, bien qu'il n'ait pas fait campagne, il ne lui manque 40 voix pour être élu. Et alors seulement certains s'étonnent de l'impunité dont il jouit. Il se défend en invoquant le rôle de conciliateur que, comme Clémenceau, il a voulu jouer entre Paris et Versailles. Et il faut attendre les élections législatives partielles du 11 mai 1873 pour voir les attaques reprendre, et avec plus de force. Après l'élection à Paris de Barodet, le 27 avril 1873, Barodet, lui aussi homme de la conciliation entre Paris et Versailles, et maire de Lyon qui venait d'être destitué, élection à Paris, élection législative, acquise avec le soutien de Gambetta, qui voit dans ce succès la possibilité de faire élire Ranke à Lyon. C'est un grave échec pour Thiers, car le candidat que bat Barodet, c'est Rémusat, qui était le candidat de Thiers. Et l'élection de Ranc à Lyon le 11 mai, c'est le coup de grâce pour Thiers, d'autant qu'elle s'accompagne de quelques autres élections de radicaux. Et comme vous le savez, le 24 mai 1873, eh bien, Thiers est mis en minorité à l'Assemblée. Mais contre Ranc, à peine élu, on invoque la loi du 15 mars 1849 interdisant aux accusés contumaces de devenir représentants du peuple. Une commission conclut à la validité de son élection, mais un surinstinct le pousse à reprendre le chemin de l'exil, pour Bruxelles cette fois, avant qu'un conseil de guerre le condamne à mort le 13 octobre 1873. Il ne reviendra qu'après l'amnistie de mars 1879. 20 ans après celle qui lui avait permis de rentrer de Montreux, ce fut, comme vous savez, le premier grand combat parlementaire de Clémenceau, élu député en 1876. Et il n'est pas indifférent que l'un de ses alliés dans ce combat ait été Georges Perrin, élu député de la Haute-Vienne, ce même 11 mai 1873. L'inévitable Georges Perrin, écrivait Jean-Baptiste Durosel pour désigner ce témoin attitré de Clémenceau lors de ses duels, quand ce n'était pas Arthur Ranc, autre expert du point d'honneur, comme lors du duel de juillet 1894 avec Paul Deschanel. Ce rappel pourrait me permettre d'enjamber commodément 15 années de vie républicaine, durant lesquelles les opinions et engagements respectifs des deux duellistes furent loin de toujours converger. Comme le temps manque, pour entrer dans le détail, je résume à grands traits. Dans les années 1880, Ranc est et reste gambettiste. Il est de l'équipe de rédaction de la République française. Dans le recueil intitulé « Ranc, souvenirs, correspondances », édité par sa veuve en 1913, celle-ci prend soin de rappeler dans son avant-propos qu'à la mort de son mari, elle a apporté à Clémenceau, alors président du Conseil, le registre des dépêches envoyées par le gouvernement de la Défense nationale que Ranc avait conservé et que Clémenceau a fait déposer aux archives nationales. Mais elle reproduit dans le livre un article de mai 1885 intitulé « Les élections à Paris » où, en prévision d'élections législatives organisées par exception au scrutin de liste majoritaire à 2 tours, Ranc en appelait à l'union des Républicains et ironisait sur l'éventualité de voir paraître, je cite, « la grande liste intransigeante, la liste révisionniste, la liste enfin qu'on appellera liste Clémenceau, si le député de Montmartre parvient à imposer sa direction et à faire accepter par l'armée qu'il croit commander ses vues particulières. Cela n'irait pas tout seul, cela n'ira pas tout seul, commente-t-il, et il est bien possible qu'étant leur chef, M. Clémenceau soit obligé de les suivre et de rentrer dans le rang. » Aux élections d'octobre, c'est Ranc qui fut l'une des victimes de la désunion des Républicains. 3 ans plus tard, en mai 1888, face à la menace que représente Boulanger, qui vient d'être élu député du Nord, les deux amis se retrouvent pour fonder au Grand Orient, rue Cadet, une société des droits de l'homme et du citoyen dont la présidence est confiée à Clémenceau et la vice-présidence à Ranc. Waldeck-Rousseau écrit à Ranc le 19 mai. « Votre nom et celui de Clémenceau résument l'idéal de notre parti. Ces deux noms se complètent l'un l'autre et je crois pouvoir dire qu'ils ont sauvé le régime ces jours-ci. » Et Ranc se plaît à commenter dans le matin du 25 mai à l'adresse des boulangistes. « On dira que Ranc a été une fois de plus joué par Clémenceau. Ces noms, écrivez-vous, hurlent de se trouver ensemble. Moi, cela me ragaillardit. Cela me donne bon espoir de me retrouver avec mes anciens compagnons de lutte. » Il y a 20 ans, nous étions d'accord pour combattre l'Empire. Nous voici d'accord pour sauver la République. Sachez-le bien, l'entente durera autant que le péril. Une fois le péril passé, et après que Clémenceau a perdu son siège de député à l'été de 1893, les taquineries reprennent. Et je remercie Sylvie Brodziak d'avoir attiré mon attention sur l'une d'elles, qui est très révélatrice. L'échange de piques a lieu un mois tout juste après le duel entre Clémenceau et Deschanel, où Ranc a été l'un des témoins de Clémenceau. Au lendemain d'élections sénatoriales qui ont vu la défaite d'un membre historique du Parti républicain, Martin Nadeau, dans son département de la Creuse, Clémenceau lui consacre dans la justice un article qui tient, il faut bien le dire, de l'éloge funèbre anticipé. Nadeau a encore 4 ans à vivre. et il y commente ainsi sa défaite. Aux dernières élections, il reste sur le carreau. Je ne veux pas savoir pourquoi, ce n'est pas mon sujet. S'il salue le lendemain dans Paris, le journal quotidien qu'il dirige alors, qui a ce titre, Paris, où il publie des articles sur l'affaire Dreyfus que je mentionnerai tout à l'heure, un bien bel article sur le vieux Nadeau, dit Rank. Mais il ne peut s'empêcher de relever ce trait. Il ne veut pas le savoir. Comme ce mot peint bien M. Clémenceau et cette légèreté oublieuse qui gâte si souvent ses grandes qualités. Si Nadeau est resté sur le carreau, c'est qu'on ne le trouvait pas assez radical, assez extrême gauche. Clémenceau, comme vous le pensez, veut avoir le dernier mot et répond le lendemain. Pendant les élections, M. Rank, paisible sénateur, contemplait de Paris tout le champ de bataille. J'étais dans la mêlée. Peut-être suis-je excusable de n'avoir pas suivi du Var les péripéties de la lutte électorale dans la Creuse. Ce qui, au passage, nous confirme que Clémenceau est bien en train de préparer son élection à lui dans le Var, qui ne sera pas pour tout de suite. Mais entre l'aîné, sénateur de la Seine, en effet, depuis 1891, et premier président du groupe de la gauche démocratique qu'il a contribué à constituer dans cette Chambre, et le cadet qui y fera son entrée en 1902 pour y représenter le Var, l'Union allait bientôt se faire à nouveau dans ce qui reste certainement la plus grande des batailles qu'ils aient livrées ensemble, l'affaire Dreyfus. Et je parle évidemment sous le contrôle de Philippe Auriol, mais il me semble qu'aucun récit ne rend mieux compte de ce double engagement de façon tour à tour piquante et poignante que celui de Joseph Reynac. Et pour cause, quoique Reynac, né en 1856, eut 25 ans de moins que Rank, tous deux étaient, si l'on peut dire, de la fratrie gambettiste, enfin, ou du groupe gambettiste, comme on a dit tout à l'heure. Et ça leur avait donné quelques raisons d'en vouloir, Clémenceau et Reynac, davantage encore. Hein, pour empêcher l'élection de Clémenceau à la présidence de la Chambre en 1887, Reynac avait fustigé dans la République française l'un des hommes qui ont le plus contribué au discrédit du régime parlementaire. Dans son histoire de l'affaire Dreyfus, il retrace les chemins par lesquels ils se sont retrouvés, tous trois, unis dans le combat. Dès novembre 1894, alors que la quasi-totalité de la presse, Clémenceau y compris, tient la culpabilité de Dreyfus pour certaines, Rank se distingue en s'étonnant des obscurités de la procédure et en demandant la lumière, toute la lumière. Il rappelle, écrit Reynac, les principes du droit dans sa forte langue, sans métaphore, pénétrante comme l'acier. Après le lancement de l'Aurore, je n'y reviens pas, Philippe Auriol a dit tout ce qu'il y avait à en dire tout à l'heure, mais c'est Rank qui envoie Clémenceau voir Scherer-Kestner. Et tout le commentaire que donne Reynac de ses retrouvailles mériterait d'être cité, mais retenons-en seulement ceci. Scherer, esclave de sa parole, Philippe Auriol a rappelé pourquoi, ne donna à Clémenceau aucune preuve de l'innocence de son client, mais son attitude, sa résolution, son calme sous l'orage troublèrent son visiteur. Artiste, il pressentit un beau drame. Fils de l'encyclopédie, une belle bataille contre un retour offensif du Moyen-Âge. Cela lui suffit. Et plus loin dans le récit arrive cet hommage de Reynac, où, je crois, on peut voir un juste témoignage de l'influence de Rank sur Clémenceau. Depuis 3 ans qu'il n'avait pas été réélu à la Chambre, Clémenceau faisait son apprentissage du journalisme. Il tâtonna assez longtemps, cherchant sa forme, volontiers déclamateur, lui qui avait porté à la tribune la parole la plus nerveuse et la plus cinglante qu'on eût encore entendue. Maintenant, au service de cette grande cause, l'écrivain va égaler l'orateur. Précis, hautain, logicien impitoyable, d'une ironie qui déchire et qui mord, serrant chaque question à l'étrangler et parfois d'un mouvement brusque s'échappant comme une flèche vers les sommets. On sait que Rank n'a pas l'habitude de parler au hasard. Voilà l'un des hommages les plus sobres que Clémenceau lui ait rendu, mais on y entend comme une reconnaissance de dette. Entre l'émulation juridique ou simplement logicienne, journalistique et ironique, se prolonge dans les méandres d'où sort en décembre 1905 la loi de séparation des Églises et de l'État. Et elle peut alors se nourrir de leur conversation, dans le cadre où nous sommes réunis aujourd'hui, puisque Ranc, battu à Paris en 1900, est élu sénateur de la Corse en 1903. Voilà donc les deux Poitevins devenus des représentants de la Méditerranée. L'article de Clémenceau, intitulé « Au bord du fossé », dans l'aurore du 16 janvier 1905, soit 8 jours avant la chute du gouvernement Combes, s'achève ainsi. Je ne ferai même pas mention des propos de couloirs communs en pareil cas. Donc, 8 jours avant la chute du gouvernement Combes. Je ne ferai même pas mention des propos de couloirs communs en pareil cas si Ranc, qui est un bon pince sans rire, n'avait trouvé plaisant pour effrayer les petits poussés qui veulent chausser certaines grandes bottes sans propriétaire, de dénoncer ma gloutonnerie d'aval tout cru. Il paraît que je rôde dans l'ombre, cherchant à déjeuner de la moustache de Deschanel pour souper du sourire de Doumer. Pauvre chair de Gargantua, je suis plus vorace que vous ne croyez encore, ô mon vieil ami. Mais pourquoi révéler ce fol appétit du pouvoir que j'avais réussi à cacher, même à Joseph Reynac, pendant ces 20 dernières années? Me voilà maintenant aussi ridicule que le dernier mendicant de Maroquin. Et c'est à vous, Ranc, que je devrais ce malheur, vous sur qui j'avais tant compté pour mon oraison funèbre. Mes chers amis, quand je mourrai, n'ayez point Ranc au cimetière. J'aimerais son œil éploré, sa voix me serait douce et chère, mais Dieu sait ce qu'il dirait. En fait, de raisons funèbres, l'écartage entre eux rendait plus probable la situation inverse. Mais ce dernier rendez-vous n'a pas eu lieu. Christophe Soulard affirme que Clémenceau a assisté aux obsèques d'un de ses meilleurs amis, mais il les situe à la mi-avril 1908, alors qu'elles ont eu lieu à la mi-août, et Clémenceau n'a fait qu'y envoyer une couronne. Il ne fait pas partie du millier de bons républicains qui font le douloureux voyage du Père Lachaise. Parmi les personnalités qui tiennent les cordons du poil, il y a le général Picard. Les discours sont prononcés par Gaston Thompson, ministre de la Marine, au nom du gouvernement, Joseph Reynac, au nom des amis de Gambetta, Paul Strauss, au nom de l'Association des journalistes républicains, et Victor Simon, au nom de l'Aurore. Gaston Thompson, ministre de la Marine, est témoin de Clémenceau lors de son duel avec Déroulède en 1892. Et on regrette vraiment qu'en la circonstance, le témoin ait représenté le bretteur. Peut-être celui-ci n'aurait-il pas désapprouvé les paroles de Joseph Reynac au bord de cette tombe. Ranc, qui savait merveilleusement la politique, connaissait le fort et le faible des partis, cherchait à se rendre toujours un compte exact du possible, fut un conseiller plein de sécurité. Il pouvait se tromper, et de son propre aveu, il s'est plus d'une fois trompé, mais alors même qu'il ne vous persuadait pas, et j'en sais plus d'un, même parmi ses amis les meilleurs, qu'il ne convainquit pas des inconvénients de la liberté. Il y avait toujours profit à le lire, et peu d'actions, pendant tout le temps qu'il a tenu la plume, ont été plus profondes que la sienne. Je vous remercie.
Nous aimons toujours à saluer les noces de l'élégance et de la profondeur. Je crois que cela a marqué cet exposé. Nous en savons gré, mon cher Jean-François. Une question juste. Pourquoi n'a-t-il il a jamais participé au pouvoir exécutif, finalement? Comment expliquez-vous ça? C'est de son fait ou de fait des autres?
Dans le passage de Vallès auquel j'ai fait allusion... Donc ce sont ces deux jeunes gens qui se parlent et Ranc dit à l'autre, tu as reconnu ce type-là? Il dit non, c'est un représentant de l'Assemblée X. Et Vallès dit, il parle à la Chambre, on entend la Chambre. Et Ranc répond... Non, il se réserve. Et Vallès commente, il se réserve, comme ce mot peint bien Ranc. Et je pense que Ranc, c'est... était trop fidèle à Gambetta, au fond, hein, pour avoir joué les premiers rôles. Il les a joués brièvement dans le gouvernement de la Défense nationale. Il a été quand même en fonction là, autour, dans l'équipe. Mais ensuite... il bascule entièrement du côté du journalisme Et il ne revient pas, il est dans le journalisme politique ô combien, mais il ne revient pas dans la politique autre que parlementaire. Et c'était tout de même déjà beaucoup. Mais pourquoi n'a-t-il pas été ministre? En effet, c'est une question.
Merci, merci beaucoup. Dernière intervention de la matinée, nous nous en réjouissons. Nous allons nous tourner, cher Guy Avizou, vers Viviani. Nous avons parlé de la Creuse tout à l'heure. Elle s'impose encore à cette tribune, puisque c'est le lieu où vous avez enraciné vos curiosités, vos recherches comme professeur agrégé d'histoire, géographie. Vous êtes président de la Société des sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse, SSNAHC. Il faut se rappeler le nom. Et c'est évidemment quelque chose qui vous passionne. La plus ancienne de France.
Une des plus anciennes.
Eh bien, nous saluons la société et son président avec chaleur. Vous avez joué un grand rôle sur place et à partir de votre dilection pour la Creuse, vous avez publié des travaux importants et des expositions aussi sur l'histoire du département. Parmi celles-ci, la Creuse au début de la Révolution de 89 à 92, la vie politique dans la Creuse de 1789 à 1939, d'autres ouvrages encore. Ils sont évidemment très précieux. Vous allez nous parler de Viviani. J'ai entendu parler de Viviani dès ma prime enfance, puisqu'il avait été le camarade de mon grand-père à la conférence des avocats. Ils avaient été élus tous les deux en tête. Viviani premier, éloquence prodigieuse, celui qui a éteint dans le ciel des lumières qui ne se rallumeront pas. Viviani, et ils étaient en tête de la conférence des présidents. Et c'est évidemment pourquoi j'en ai entendu parler... Mais en dépit des distances qui ont pu se creuser, nous allons le voir, et aussi des rapprochements entre... J'ai fait une erreur ?
Petite précision chronologique, Viviani n'appartient pas aux amis d'enfance, voilà. Mais monsieur Avizou nous fait le plaisir d'intervenir parce qu'il ne pouvait pas intervenir plus tard.
Ah oui, bah, oui, c'est ça. Ça ne fait pas. Oui, les amis d'enfance, de jeunesse, vous voulez dire.
Voilà, de jeunesse, oui. De jeunesse.
Non, il n'a pas joué aux billes avec Clémenceau. Non, c'est une des révélations de ce colloque et je m'en félicite.
Voilà.
Effectivement, très bien. Merci pour cette précision. Mais la ductilité de notre esprit, de notre curiosité va être assez grande pour accepter qu'il y ait cette petite différence temporelle. Monsieur et chers collègues, nous vous écoutons avec un grand plaisir.
Merci, Monsieur le Président. Merci également aux amis de Georges Clémenceau de m'avoir invité à participer à ce colloque. Et la précision importante que vous avez indiquée à l'instant, à savoir que pour des raisons personnelles, je ne puis pas rester au-delà du début de cet après-midi et donc d'avoir accepté que ma communication puisse se faire ce matin. Je vais donc vous parler des relations entre René Viviani et Georges Clémenceau. Donc ces relations s'inscrivent dans la durée entre 1893... qui est la date de la première élection de René Viviani comme député du 5e arrondissement de Paris, et octobre 1915, qui marque la fin du ministère formé par René Viviani au mois de juin 1914. Entre ces deux acteurs majeurs de la vie politique de cette période, les relations sont passées par plusieurs phases que je vais essayer de retracer. La première est marquée par une proximité certaine entre les deux hommes. Celle-ci s'amorce avec l'élection de René Viviani comme député, se renforce au moment de l'affaire Dreyfus et atteint son apogée avec l'entrée de René Viviani comme ministre du Travail et de la Prévoyance sociale dans le premier ministère de Georges Clémenceau en octobre 1906. Cette proximité peut-elle être assimilée à une réelle amitié? Il semble que oui, même s'il est difficile de trancher définitivement cette question au vu de la documentation disponible et que j'ai pu utiliser. Ensuite, les deux hommes s'éloignent progressivement l'un de l'autre, avant même d'ailleurs la fin du ministère Clémenceau, tout en conservant jusqu'à la guerre des relations relativement cordiales. Lorsque René Viviani devient président du Conseil en juin 1914, Georges Clemenceau lui apporte publiquement son soutien. Par contre, dès octobre 1914, les éditoriaux de L'Homme enchaîné sont de plus en plus critiques de l'action de René Viviani et de son gouvernement, et certains d'entre eux s'en prennent directement à la personne même de Viviani. C'est de cette période que l'on peut dater la rupture définitive, politique, mais aussi personnelle, entre les deux hommes. Dans la première partie, une amitié nouée dans les combats politiques au tournant des 19e et 20e siècles. Peu de choses rapprochent au départ René Viviani de Georges Clemenceau. Une génération les sépare et leurs origines familiales et leur parcours de jeunesse sont très différents. Georges Clemenceau naît en Vendée, à Mouilleron-en-Parée, le 28 septembre 1841, dans une famille de notables républicains. René Viviani voit le jour, lui, le 8 novembre 1863, à Sidi Bel Abbès, dans l'Algérie coloniale, d'un père aux ascendances corse et italienne et d'une mère issue d'une modeste famille républicaine du Tarn, partie se fixer en Algérie après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851. C'est seulement en 1888 que René Viviani, qui n'a obtenu la nationalité française qu'à l'âge de 20 ans, au moment de son service militaire, vient se fixer en métropole pour achever ses études de droit à Paris, avant d'intégrer le cabinet d'avocats d'Alexandre Millerand, dont il devient un proche collaborateur. Il est élu député du 5e arrondissement de Paris lors des élections de 1893, au moment où Clemenceau quitte la Chambre des députés suite à sa défaite dans le Var. Les deux hommes ne siégeront donc jamais conjointement à la Chambre des députés. Les premières traces des relations entre les deux hommes semblent remonter pourtant à ces années 1893-1895. Entre 1894 et 1906, vous le savez, Georges Clemenceau devient un collaborateur régulier de La Dépêche, le grand quotidien républicain qui rayonne sur plusieurs départements du Midi toulousain. Et plusieurs de ses articles publiés dans La Dépêche concernent directement ou indirectement Viviani. C'est ainsi que dans un article du 3 mars 1896, intitulé « À Toulouse », Clemenceau rend compte de l'audience du tribunal de cette ville consacrée au procès intenté contre Jaurès par le directeur de la verrerie de Carmaux, Rességuier. Jaurès est défendu par René Goblet et par René Viviani. Dans son article, Clemenceau prend vivement à partie Rességuier, ainsi d'ailleurs que le procureur de la République, Jean Soult. Et il écrit « Les belles plaidoiries, les démonstrations lumineuses de messieurs Viviani et Goblet ». C'est l'affaire Dreyfus qui va réellement rapprocher Clemenceau de Viviani. L'attitude des deux hommes sur le sujet suit un parallélisme qu'il faut souligner. C'est en 1898 que Viviani va s'engager pleinement pour la défense de Dreyfus, alors qu'au départ, il s'est tenu sur une prudente réserve, comme beaucoup de ses amis socialistes. On trouve même, dans certains de ses articles et discours des années 1895-1897, quelques relents d'antisémitisme, lequel, on le sait, est très répandu chez beaucoup de membres de la communauté européenne d'Algérie, avec laquelle Viviani a conservé des liens assez étroits. Mais à compter de 1898, comme Clemenceau, il devient, par l'écrit et par l'action, un ardent défenseur du capitaine Dreyfus. Tous deux sont signataires de l'adresse à Dreyfus, lancé à l'initiative de plusieurs intellectuels et publié simultanément dans l'Aurore et dans le Siècle en septembre 1899, au moment du procès de Rennes. Au même moment, Viviani dans La Lanterne, Clémenceau dans l'Aurore et Jaurès dans La Petite République font part de leur volonté de poursuivre le combat jusqu'à la complète réhabilitation du capitaine. Cette période a permis aux deux hommes de mieux se connaître et de s'apprécier. Cette impression est confirmée par plusieurs articles publiés par Clémenceau dans La Dépêche. C'est ainsi que le 1er juillet 1899, dans un article consacré à la mise en place du cabinet Waldeck-Rousseau, il écrit « Presque tous les radicaux ont répondu à son appel, comme la majorité des socialistes à l'appel de Viviani. » Dans l'article du 18 novembre 1899, Clémenceau félicite Viviani pour son intervention à la Chambre en soutien à Waldeck-Rousseau en écrivant « Ce qui m'a particulièrement touché dans son discours, c'est que Viviani s'est prononcé avec une netteté parfaite contre l'amnistie des faussaires, des faux témoins, des officiers de forfaiture. » Clémenceau souligne aussi les positions réformistes du socialiste Viviani qui rendront possible son entrée dans le ministère Clémenceau en 1906. Dans l'article publié toujours dans La Dépêche, le 3 juin 1901, article intitulé « Les partis d'action républicaine », Clémenceau fait sienne la distinction entre les socialistes de gouvernement et les socialistes révolutionnaires, les premiers très proches des radicaux, les seconds attendant la société nouvelle d'un coup de révolution. Parlant de Viviani et de Jaurès, il écrit « Jaurès et Viviani, qui se croient encore hommes de révolution, sont en train de glisser en dépit d'eux-mêmes sur la pente qui les mènera tôt ou tard à quelques maniements d'autorité bourgeoise. Je ne dis pas cela pour les en blâmer, mais il faudra que tôt ou tard, en cherchant l'unité, ils rencontrent la définitive cassure. J'imagine que Viviani, plus pratique, est celui qui sera le plus tôt consolé. » Lors des élections, du printemps 1902, Viviani perd son siège de député du 5e arrondissement de Paris. Clémenceau regrette cet échec. Dans un article publié quelques mois plus tard et consacré aux incidents survenus à Terre-Noire dans la Loire entre l'armée et les ouvriers mineurs, et après avoir fait un vif éloge du discours prononcé sur ce sujet par Briand, il continue dans cet article. Puisse Viviani le rejoindre bientôt à la Chambre. La haute entreprise appelle le concours de tous les bons ouvriers. Ces premières années du XXe siècle marquent donc l'apogée des relations Clémenceau-Viviani. C'est sans doute la période où l'on peut parler d'amitié entre les deux hommes. Le 15 janvier 1906, Clémenceau et Briand sont les témoins du mariage de René Viviani avec Isabelle de Bouhellier, mariage célébré à la mairie du 7e arrondissement de Paris. Le 25 octobre de la même année, Georges Clémenceau l'appelle dans son gouvernement pour occuper la fonction nouvellement créée de ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Ce n'est pas ici le sujet d'évoquer l'œuvre de Viviani à la tête de ce ministère. C'est pourtant pendant ces années que les relations entre les deux hommes vont commencer à se détériorer. Cette détérioration s'explique sans doute par l'attitude très ferme adoptée par Clémenceau face au mouvement des grèves qui marque son ministère, ce qui met évidemment en difficulté le ministre du Travail, dont l'un des objectifs était justement de promouvoir le dialogue social. Dans sa biographie d'Aristide Briand, Georges Suarez rapporte les propos suivants sur Clémenceau, propos attribués à Viviani. Clémenceau est une brute, incapable de comprendre. Il passe son temps à s'occuper des affaires extérieures, ne songe pas à la politique intérieure. On ne fout rien là-dedans. Bon, ça, c'est le langage de Viviani. C'est à dégoûter de travailler sous la présidence d'un pareil CO. C'est deux points de suspension.
C'est-à-dire
con.
J'avais compris.
Ah, si je n'avais pas les retraites ouvrières à faire aboutir, retraites qui effectivement n'aboutiront que ne seront votées définitivement par le Sénat qu'en 1910. Donc si je n'avais pas les retraites ouvrières à faire aboutir, je lui ficherais volontiers ma démission sur la figure. Deuxième partie, donc, vers la rupture. Suite aux élections législatives du printemps 1914 et l'échec de Ribot à obtenir l'investiture de la nouvelle Chambre des députés, Raymond Poincaré nomme René Viviani à la présidence du Conseil. Georges Clémenceau accueille favorablement le nouveau gouvernement. Il intitule son éditorial de l'Homme libre du 17 juin 1914. Le titre, c'est « Un bon départ ». Il y écrit « Le cabinet Viviani fait un bon départ. La déclaration ministérielle dit tout ce qu'il faut dire et le dit fort bien. Les grandes questions vitales du jour y sont successivement traitées dans une langue souvent heureuse. On se fait sentir le trait d'une personnalité républicaine, laïque et sociale. C'est à la question des trois ans pour le service militaire, hein, qu'on attendait puérilement le ministère. Confirmé et développé par le discours de M. Viviani, le texte écrit donne tous les éclaircissements nécessaires. La loi sera maintenue. Alors que Viviani avait, en tant que député, voté contre la loi des trois ans. C'est avec la Grande Guerre qu'intervient la rupture complète entre les deux hommes. Celle-ci va se faire progressivement à partir de l'automne 1914. Lorsque s'achève le ministère Viviani, un an plus tard, à la fin octobre 1915, elle est devenue irrémédiable et laisse la place à une franche hostilité. Dès octobre 1914, dans ses éditoriaux de l'Homme enchaîné, Clémenceau devient le censeur impitoyable du ministère Viviani. Ses critiques portent sur la conduite de la guerre, sur le manque d'autorité et de volonté politique qu'il impute au cabinet Viviani. Et en voici quelques exemples. La première critique porte bien évidemment sur l'établissement de la censure. De nombreux éditoriaux de Clémenceau abordent ce sujet. On peut citer par exemple ceux du 15 novembre 1914, du 20 novembre 14, du 8 décembre, du 8 janvier 1915. Dans ce dernier éditorial intitulé « Pour la vérité », Clémenceau fait un vibrant éloge de la liberté de la presse et dresse un portrait féroce du président du Conseil. Un avocat qui a vécu dans la paperasserie, tant en dépit de lui-même, a resté au plus fort de la tourmente un homme de papier. Et plus il a de génie, comme il paraît que c'est aujourd'hui notre chance, plus il fait confiance aux fautes de jugement dont nos administrations nous ont fait cruellement souffrir. La seconde critique adressée par Clémenceau au gouvernement concerne ses excès d'autoritarisme, qui visent notamment Viviani est Mitterrand et qui n'épargne pas non plus le président de la République. Il leur reproche le peu de cas qu'ils font des avis et critiques exprimés par les assemblées. Le 13 janvier 1915, dans un éditorial intitulé « Esthète de gouvernement », souvent teinté d'une ironie mordante, il écrit « Les chambres se sont réunies et le ciel n'est point tombé sur nos têtes ». Pourquoi le gouvernement anglais saisit-il avec tant d'empressement l'occasion de s'expliquer sur les choses de la guerre devant le Parlement, tandis que nos fameux républicains se donnent tant de mal pour s'épargner le plaisir de cette rencontre. Leur signale-t-on, dans un certain nombre de services, des désordres qu'ils ne peuvent contester, loin d'en chercher les remèdes, ils ont pour toute préoccupation de supprimer les articles de journaux où les faits se trouvent simplement exposés. Ils savent que la loi ne leur donne pas le droit de le faire, mais la loi, devant un Viviani, un Millera, un Malvi, je vous demande si cela compte. L'État, c'est eux. Ils ne nous ont pas toujours dit cela, mais pour la pratique du précepte de Louis XIV, ils n'ont point de pareil. Enfin, un troisième thème est cher à Clémenceau et lui donne le prétexte de nouvelles attaques virulentes contre le gouvernement de Viviani. Il s'agit de la dénonciation de ce qu'il appelle les embusqués. De nombreux éditoriaux sont consacrés à ce sujet dans L'Homme enchaîné, dans lequel, là aussi, il critique l'inaction du gouvernement. Lorsque Viviani quitte la présidence du Conseil, à la fin d'octobre 1915, la rupture avec Clémenceau est consommée et elle va s'avérer définitive. Forgée au temps de l'affaire Dreyfus, leur amitié n'a pas résisté à l'épreuve de la Grande Guerre, qui a révélé chez eux deux conceptions opposées du fonctionnement de l'État et de la conduite de la guerre. Je vous remercie de votre attention.
Nous vous remercions pour cette évocation légèrement décalée dans le temps, pour la raison que vous nous avez dite, mais qui n'a pas pour autant manqué de susciter notre grande curiosité. Il m'est arrivé de me demander, en vous écoutant, si un parallèle entre leurs deux éloquences, l'une et l'autre célébrées à l'époque, et vraiment fort différentes, n'aurait pas été intéressante, reflétant peut-être deux tempéraments qui, en vérité, étaient à distance d'origine. Le fameux propos de Viviani, resté célèbre, nous avons éteint dans le ciel des étoiles qui ne se rallumeront plus. On racontait qu'il tournait dans le parc de la présidence du Conseil, c'était pas encore Matignon, en se mettant en bouche, je parle de Viviani, les formules qu'il allait ensuite proposer. Oui. Évidemment, l'éloquence de coup de boutoir, qui était celle de Clémenceau, qui suivait son film et qui s'adaptait essentiellement à l'auditoire et à ses réactions, le conduisait à bonne distance. Peut-être métaphoriquement, y a-t-il là aussi une explication de leur différence. Je ne sais pas, c'est une suggestion que je ferai. Eh bien, merci à tous les quatre. Maintenant, il nous reste du temps, plus d'un quart d'heure, pour pouvoir débattre avec vous, si vous le souhaitez, écouter vos suggestions, vos critiques, vos indignations, vos fureurs, parce qu'on parle de Clémenceau, et peut-être vos approbations, ce qui est très attendu du public. Très attendu derrière cette table. Quelqu'un souhaite intervenir ou non? Je ne vois personne. Vous êtes accablé par tant de science déversée sur vous? Ou vous avez faim? Pas d'observation? Même en ayant relu le De Amicitia de Cicéron ce matin au petit déjeuner? Non? Eh bien, nous allons donc... Ah, cher monsieur, vous avez la parole. Est-ce qu'il y a un micro-baladeur? Il y a. Merci, président Wormser.
Merci. Il apparaît, mais je peux me tromper, que ce soit des amitiés sous condition et qu'il faille, bien sûr, se soumettre. Hein. Alors, qu'est-ce que l'amitié à cette époque?
Ah oui, ben justement, et celle de Cicéron, Cicéron et ses amis, il y avait un fameux livre de Boissier. Vous voulez comparer, tâcher de chercher l'essence de l'amitié à ce moment-là, qui serait différente d'autres périodes, dans votre esprit? Oui? Qui souhaite proposer une réflexion générale sur l'amitié de cette Troisième République, cette troisième? Voilà un défi, en vérité. Monsieur le recteur?
Quand vous dites sous condition, En réalité, il faut faire la part de la condition qui est effectivement politique, de tout le reste qui a été rangé par notre président, et à très juste titre, je crois, dans la catégorie de l'affectif. Or, cet affectif pèse énormément malgré... Il y a vraiment une séparation, je crois, très... pour autant qu'elle soit possible, mais on voit très bien que les taquineries, parfois les fâcheries n'empêchent pas les liens. On l'a vu aussi avec Louise Michel. Il y a, malgré des divergences très très profondes, une solidité de l'affection. Donc je répondrai ça. Il y a à la fois sans condition, parce que c'est un lien ancien, et où la fidélité rejoint l'honneur. Un sens. Philippe Auriol a rappelé tout à l'heure que si Clémenceau va chez Schoerer, c'est parce que Schoerer est attaqué, parce qu'il a reconnaissance à Schoerer de l'avoir soutenu lui en 1893. Parce que ça dit beaucoup de choses. Ils étaient très fâchés en politique. Mais il y a ce lien. Dans les moments les plus durs, on voit, et bon, au fond, c'est pas une spécificité de l'époque. On voit très bien où sont ses vrais amis, pour le coup. Hein.
Peut-être pourrait-on élargir la réflexion à une étude sur la camaraderie parlementaire. Je parle devant un éminent sénateur qui nous fait l'honneur d'être ici. Il y a probablement d'autres élus ici ou qui l'ont été. C'est quelque chose qui est différent de l'amitié et qui, en même temps, peut conduire, dans certains cas, à cette amitié-là. Il y a toute une réflexion à faire, en particulier, je trouve, sur la question du tutoiement et du voussoiement. Certains se tutoyaient parmi ceux que nous avons évoqués, notamment lorsqu'ils ont été ensemble au barreau ou ailleurs, qui sont connus, et ceux qui, au contraire, ne songent pas à le faire. On ne voit pas bien Barrès tutoyer Jean Jaurès, ou Albert Demain tutoyer Joseph Reynac. Mais c'est en 1902... semble-t-il qu'on est passé du « vous » assez dominant au « tu » dans une grande partie de la gauche, notamment, et ce qui s'est ensuite tout à fait développé aujourd'hui, à une époque où notre président de la République tutoie le pape. Ça n'a pas de rapport, je ne sais pas si leur amitié. Ce n'est pas notre sujet, on fera un colloque là-dessus plus tard. Mais là, il y a, je crois, toute une réflexion sur la camaraderie qui n'est pas, monsieur, l'amitié. Ça peut se rencontrer. Jacqueline.
Pardon. Oui, pour revenir sur la distinction qu'à juste titre vient de faire Jean-François, je pense que sur le volet affection, il faut ajouter qu'en outre, il y a la vie privée, les familles se connaissent, les témoins de mariage, les soins à la mère, etc. etc. Donc ce n'est pas seulement une affection... Pardonnez-moi. Ce n'est pas seulement une affection entre deux personnes, c'est vraiment tout un lien... entre des familles, en réalité, ce qui doit rendre encore plus intense la notion de fidélité, en fait. Parce que rompre avec une personne, ça ne serait pas rompre seulement avec elle, ça serait rompre avec peut-être pas un réseau, mais enfin, voilà.
C'est très juste. Vous souhaitez ajouter quelque chose ? Non ? Je vous en prie. Sylvie.
Non, juste pour revenir sur ce que vous disiez, et l'affaire Dreyfus est un très bon exemple pour ça, puisqu'on connaît le fameux dessin de Carandache qui vaut ce qu'il vaut, en fait, parce qu'historiquement, il ne tient pas vraiment. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les familles, ils en ont parlé, vous voyez. Dans les familles, effectivement, des gens se sont mis en colère parfois, mais les amitiés, même s'il y a eu parfois des amitiés qui ont été obligées de se dissoudre absolument, et des amitiés qui se sont créées, il y a une petite anecdote que je trouve assez amusante sur le fait que les amitiés, quoi qu'il arrive, perdurent, mais en tout cas perdurent dans l'intimité, mais pas sur la place publique. Il y a une lettre assez peu connue, mais qui est amusante, de Sarah Bernard à Arthur Meyer. Donc Arthur Meyer, c'est le directeur du Gaulois.
Ce que mes yeux ont vu, c'était le titre de
voilà,
mémoire.
Voilà, c'est ça. Voilà. Donc israélite anti-Dreyfusard, qui se convertira au catholicisme pour faire plaisir à Charles Maurras, mais Charles Maurras n'en voudra pas parce qu'un juif converti, c'est toujours un juif.
D'ailleurs, un signe, c'est que dans un duel, il avait détourné avec la main l'épée de son adversaire. Ouais, pardon de vous interrompre, mais c'est un dialogue.
Et en fait, il écrit à Sarah Bernard lui écrit en lui disant « Désolé, mais vu les positions respectives qui sont les nôtres, il n'est plus possible que nous nous voyons publiquement. Rendez-vous demain à 9h.
» Très jolie histoire, très belle anecdote. Oui. Sylvie, vous voulez dire quelque chose ?
Oui, c'est une question qui nous a posé problème au moment de l'édition de la correspondance. Parce que cette séparation entre privé, donc affectif, et politique, et donc très peu de politiques sont dans la correspondance. Très, très peu. Vous en connaîtrez un demain qui est Max, l'amiral Max.
Oui, mais c'est...
Voilà, mais qui n'a pas été parlementaire, etc. Voilà. Très, très, très peu, en fait. Et je pense qu'il y a un véritable clivage et, qui se fait. Et ce qu'il définit comme amitié réelle, en fait, ce ne sont pas les politiques. Peut-être le seul ami qu'il va critiquer et nous, sur lequel nous avons fait un magnifique colloque il y a quelques au mois de juin et qui est Mandel où là il y a effectivement une amitié réelle et jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que c'est je rebondis sur ce que vous dites Jean-Noël, camaraderie me semble plus appropriée que amitié telle que nous le concevons, avec toute la charge affective, la fidélité. C'est vrai. La correspondance privée, la correspondance générale, nous nous attendions à trouver des grandes lettres politiques pour nous faire avancer un petit peu sur cette Troisième République. Et en fait, ce ne sont pas les amis. Dès l'instant où il parle de sa santé, Clémenceau, l'amitié, la première chose, c'est dire son état de santé, parce qu'il est hypochondriaque, et donc effectivement, il parle énormément de son état de santé à ses amis. Donc voilà, je rebondirai beaucoup plus sur la notion de camaraderie parlementaire.
Oui, on a vraiment le sentiment que la vie politique est un acide qui dissout les plus anciennes amitiés, qui parfois, c'est vrai, quelquefois continuent de s'entretenir à hauteur des familles, mais que c'est vraiment très très difficile, surtout quand on concupisse en même temps les postes suprêmes. Alors ce qui subsiste souvent, ce sont les amitiés inégales. Évidemment, moi, je pense évidemment à l'amitié qui était jusqu'au bout très forte entre mon grand-père, Jules Jeanneney, et Clémenceau, mais c'est parce qu'il n'y avait vraiment aucune rivalité quant à l'idée d'accéder au pouvoir suprême. Et d'ailleurs, Jules Jeanneney ne souhaitait pas tellement accéder au pouvoir en tant que tel. Et il avait été le collaborateur au gouvernement. Et observez, même quand vous citez Mandel, que dès lors que Mandel se fait élire et a ambition d'entrer dans l'exécutif, les relations sont nettement plus tendues, de même qu'avec Tardieu. Quelles que soient les raisons de fond de leur désaccord potentiel, ils ne supportent pas vraiment que Tardieu devienne à son tour un homme public de premier rang. C'était son collaborateur, c'était son ami. Et concordance des temps ou pas, je vous laisserai volontiers transposer cette réflexion vers des rivages plus contemporains. Voilà, je pense qu'on va s'en tenir là et que nous allons nous séparer un moment pour nous substanter et nous retrouver tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui.
Donc,
oui, annoncer le menu, non pas...
Le menu, non, mais je crois que vous allez vous représenter à l'accueil, parce que si j'ai bien compris, on recommence, nous recommençons la liste, nous allons avoir vraisemblablement un autre badge, voilà, donc il faut refaire ce que nous avons fait ce matin.
Nous souhaitons, ce sera ma dernière intervention, qu'aucune amitié ne se brise au cours de ce colloque entre vous. Je me rappelle ce que disaient parfois les surréalistes qui se serraient la main toutes les deux minutes pour vérifier qu'ils n'étaient pas brouillés entre-temps. Je vous souhaite un bon appétit.